Dans le tempo, vous êtes dans le podcast des passionnés de musique, c'est le 39e épisode. C'est parti. Ça va, mon gadaz ?
Ouais, tranquillement. Tranquillement.
C'est la fraîcheur un peu. Hein.
C'est la fraîcheur, c'est des journées de 150 heures. Tu connais la vie de freelance, quoi.
Ouais.
On fait rien pendant
longtemps. Ça dépend des jours, quand même.
Voilà, ouais, on fait rien pendant longtemps et d'un seul coup, on est sur le pont pendant 157 heures d'affilée. C'est ce qui m'amène aujourd'hui.
Est-ce qu'on dévoile un peu les coulisses de DLTDS?
Oh, ben on pourrait.
Est-ce qu'on explique à nos auditeurs, à ceux qui nous regardent?
Oh, ils le méritent quand même.
Ils le méritent.
Ils le méritent.
Qu'on était censé avoir un invité.
Ouais.
Une invitée même.
Une invitée qui a décommandé malheureusement.
Oui, qui a un empêchement, ça arrive.
C'est la vie.
Il a fallu se débrouiller pour trouver quelqu'un d'autre.
Eh oui. Et figure-toi que...
C'est incroyable, vas-y, raconte.
Figure-toi que ça tombait bien parce que moi aujourd'hui, j'étais suivi par une équipe de tournage pour la RTBF.
Ah, oh, monsieur est quelqu'un.
C'est ça l'influence.
Moi, je ne suis pas la RTBF. Hein.
Mais moi, je savais pas qu'il me suivait avant qu'il me suive. C'est comme ça, c'est incroyable.
Apparu dans la rue comme ça.
Ouais, avec une caméra. Vous êtes streamer. Et en fait, non, voilà. Donc, c'est une équipe qui tourne un docu et qui m'a demandé de participer. Et donc, ils étaient en train de faire des images supplémentaires. Et figure-toi que le réalisateur du docu en question,
qui est devant nous là,
Il est là. Voilà.
Bonsoir.
C'est Robin que les aficionados de rap connaissent sous le nom de Loxley, de l'Or du Commun, un groupe de hip-hop belge francophone, donc un peu français.
c'est vrai, direct. Ok.
Et en fait, comme
on en a dessus, mais c'est vrai.
Oui, c'est vrai, bien sûr. Et comme en fait, il était là, littéralement dispo, je lui ai proposé de remplacer notre invité au pied levé.
Ce qu'il faut dire quand même, c'est qu'on avait déjà discuté d'inviter Robin auparavant.
On comptait le faire venir dans l'émission.
C'est pas là par défaut, mon gars.
C'est vrai.
L'occasion fait le larron.
Absolument.
Puis ça montre aussi la flexibilité dont on fait preuve,
qui est assez incroyable, on doit le dire.
Ouais, quand même. Hein. Ouais. Moi, je m'en félicite. Là.
Mais moi aussi. Non, mais il faut dire que tu vois, il y a des équipes qui travaillent avec nous, etc. Et quand
on annule,
c'est un peu dommage, c'est embêtant.
Ouais.
Vous avez eu de la chance, hein.
Mais oui, mais
c'est complètement.
C'est incroyable. Robin, je vais peut-être te présenter quand même pour ceux qui ne connaîtraient pas.
Tranquille.
Donc, Robin Conrad, aka Loxley, donc dans ta vie d'artiste en tant que rappeur, tu fondes en 2012 un groupe qui s'appelle L'Or du Commun avec tes acolytes, Swing et Primero. Il y avait aussi,
Fais les flingues,
qui était au début.
Ouais. Ouais.
Qui ensuite est parti relativement vite du projet quand même.
Relativement vite, pour nous ça a paru long, mais c'est vrai que c'est 2016-2017 je crois qu'il est le
groupe. Ah quand même.
Ouais. Non, on a quand même beaucoup tourné ensemble.
D'accord.
En fait, c'est juste au moment, disons, où vraiment le groupe a pris un tournant.
Oui, vous avez eu de l'exposition à partir de ce moment-là.
Qu'il est parti. Mais bon, ça s'est passé en même temps. On n'a pas eu de l'exposition parce qu'il est parti.
C'est pas ce que je vous entendais.
Bien sûr.
Encore que. Mais d'accord. Très bien.
En tout cas, 2012, donc vous créez le groupe. Ouais. Il va y avoir deux EP en 2013 et 2017, deux albums ensuite, Sapiens en 2018 et Avant la nuit en 2021.
Tout à fait.
Ça va.
Il y a pas eu Non, Zeppelin c'était un
Zeppelin c'est 2017.
C'est un EP
c'est
vraiment.
Un EP.
Ouais, c'est un EP.
Il y a 3 EP et 2 albums en fait. Ouais.
Ah, 3 EP même. Ouais. OK. En tout cas, de 2012 à jusqu'à aujourd'hui, vous devenez quand même un groupe assez important dans la scène rap belge, bruxelloise en particulier. Donc ça vous fait une belle expérience, des centaines et des centaines de dates, des gros festivals, etc. Alors là donc le dernier album 2021, le groupe est un peu plus en pause en ce moment puisque notamment on a vu des albums solo.
Ouais,
sorti de Swing et Primero, par tes acolytes. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, le groupe était très actif, tu faisais en parallèle d'autres choses, notamment dans les médias, tu réalises des documentaires, tu animes des émissions, etc. Parfois autour de la musique, pas que dans la musique d'ailleurs. Et là, ça fait donc quelques temps que tu te concentres beaucoup sur cette activité. Et en fait, ce qu'on aime bien dans cette émission, Daz, c'est de parler des trajectoires différentes de chacun, etc. Et j'aime bien quand justement c'est quelqu'un d'un peu multicasquette, un peu, capable de se diversifier, etc. Et ça montre aussi que la réalité du monde artistique, d'un artiste, c'est aussi pourquoi pas parfois toucher à différentes choses. Mm-hmm. C'est une expérience dont j'ai envie qu'on parle, Daz.
Ben oui, ben il faut se diversifier, c'est ce que le Wu-Tang disait d'ailleurs.
C'est vrai.
Diversify your bonds, bien sûr.
Eh bien, il a appliqué. On disait que L'Or du Commun c'est un peu le Wu-Tang belge.
C'est le Wu-Tang belge. Ils appliquent.
Moi, j'ai pris ça évidemment avec beaucoup de naturel. Hein.
Bien sûr, ça te convient.
Ça me semblait tout à fait.
Tu disais d'ailleurs que L'Or du Commun est probablement meilleur que le Wu-Tang.
J'ai dit ça, mais ça c'était un off. Ça c'était un off. Je trouve ça un peu indiscret de ta part.
Non, mais tout le monde sait que c'est une blague, Robin.
Bien sûr.
En tout cas, on peut dire que tu bosses beaucoup avec l'RTBF, que tu animes le podcast Superpose, que tu animais aussi avec chez Tarmac Flagin, c'est ça hein.
C'est Flag, ouais. C'est, Flag. Bah, ça, c'était il y a un moment déjà. C'était en 2017.
Là, ça parlait vraiment de musique.
Ça parlait vraiment de musique, ouais. C'était c'est la première fois que j'ai commencé à bosser en 2000. Enfin, avec l'RTBF, c'était en 2017 avec ce programme. C'était avec Tarmac, un média hip-hop en fait. Enfin, hip-hop jeune, disons. Ouais. Ça a été un peu mis dans la même caste au sein de l'RTBF pour des raisons.
Démographique.
Parfois valable. et en fait, c'est ça. C'était un assez chouette magazine, je pense, où on allait. C'était un magazine vidéo qui était proche du documentaire, et on allait chez les invités. Donc, on a fait quand même un beau tour de la carte des artistes de Bruxelles, quoi. Tu vois, avec ce programme. C'était ma première expérience.
C'est un truc qu'on retrouve pas mal dans ton travail dans les médias. C'est que, par exemple, tu as suivi Damso pour un documentaire que tu as écrit et réalisé qui s'appelle Kin, où tu le suivais à Kinshasa, au Congo, là où il est né d'ailleurs. Tu as aussi fait une série documentaire sur la scène bruxelloise où tu suis quatre rappeurs.
C'est ça.
Donc ça, c'est un truc qui te passionne quand même de suivre encore aujourd'hui les artistes.
Mais en fait, c'est des trucs que je mets dans des cases différentes, si tu veux. Ouais. Sur des projets comme Kin Tout Est Vie, donc avec Damso et BXXL. Là, j'agis vraiment comme réalisateur, auteur-réalisateur. Donc là, l'idée, c'est plutôt de raconter une histoire sans forcément mettre mon point de vue de façon évidente, en fait, comme point d'entrée, quoi. Tu vois, quand je suis à la RTBF et que je fais des émissions, ça c'est plus proche d'un rôle de journaliste, alors qu'en fait, voilà, toujours je le suis pas. Mais c'est très chouette aussi, quoi. Tu vois, c'est ça aussi la musique, la culture, ça vit aussi. Comme ça, hein. Enfin, tu vois, c'est des émissions radio, c'est des rencontres avec des artistes qui peuvent parler de ce qu'ils font, tu vois. Donc, en fait, j'ai paradoxalement toujours mis ça un peu dans le même sac, et puis en même temps, je sépare vraiment les choses quand je fais du documentaire, j'essaye de faire du film, quoi. Enfin, tu vois. Donc, c'est quand même une démarche qui est différente, ouais.
Bah, séparons les choses et commençons avec première partie dans laquelle on va peut-être parler un peu de ton expérience dans le rap, et en particulier, Daz, moi, ce que je trouve intéressant, c'est que tu débutes au sein d'un collectif. En tout cas, publiquement, vraiment, quand vous commencez à réaliser des trucs, etc., au sein d'un collectif. Et c'est peut-être une première approche, on pourrait discuter un peu de la place du collectif, justement. Est-ce que c'était naturel pour toi? Est-ce qu'il y a une différence France-Belgique? Est-ce qu'il y a une spécificité même rap par rapport au collectif? Parce que, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'est un peu plus difficile de défendre un groupe dans la musique de manière générale aujourd'hui. Parce que souvent, c'est un peu plus coûteux, qu'on aime bien aussi avoir quand même une icône ou quelqu'un, un individu, en tout cas, qu'on peut mettre en avant. Et dans le rap, il y a un truc un peu presque paradoxal, où en même temps c'est complètement rattaché à l'histoire du hip-hop et du rap, le collectif.
Ouais.
Et en même temps, on voit que les carrières solo, lorsqu'il y a collectif, souvent elles prennent le dessus. On peut parler d'un 995 par exemple, où on voit quand même que finalement les albums solo de Nekfeu ont presque plus marqué qu'un 995, ou en tout cas c'est un plus grand succès commercial.
Seuls les albums de Nekfeu. C'est ça aussi le truc.
Ouais.
C'est quoi, tu dis? Seuls les albums de Nekfeu ont le plus marché parce qu'ont le plus marqué.
Après Alpha One, tu vois, il était beaucoup moins mis en valeur par exemple au sein d'un 995 qu'il est devenu ensuite grâce à sa carrière solo.
Oui,
j'ai l'impression.
Oui, mais après tu vois, il y a Sneezy, il y a Funky Flav qui eux pour le coup Sneezy il a essayé.
Oui.
En solo,
ça a un peu moins marché.
Ça a jamais trop pris, tu vois. Funky Flav, je crois qu'il a même pas essayé en solo.
Est-ce que j'ai dit une bêtise ou il s'est lancé? Il est plus derrière.
Ouais,
il est plus
dans le
label ou un truc comme ça. C'est pas de bêtise.
Ouais. Donc en fait. Le collectif permet aux personnalités d'émerger, mais ça veut pas dire que parce que t'es dans le collectif, tu vas forcément transformer l'essai si tu passes la barrière du solo. Donc
comment ça s'est fait, vous? Toi, c'était naturel de rapper avec des copains?
Ouais, grave. Pour nous, ça a été toute la dynamique. Enfin, le fait que ce soit quelque chose de collectif, c'était complètement l'essence du truc. Mmh. Et je pense que, effectivement, comme tu le dis, de toute façon, c'est un peu essentiel dans le hip-hop. Il y a cet esprit de faire des choses ensemble, de faire des choses mieux ensemble. Enfin, tu vois, ça c'est un peu la vision old school en vrai, mais ça fait quand même partie du truc.
Il y a l'émulation, c'est un vrai truc.
C'est ça. Et en fait, en gros, pour te raconter les choses, pour faire un bon storytelling, moi à l'époque. Je suis étudiant en art, en fait. J'étudie la peinture. Moi, mes deux parents sont artistes, donc j'ai toujours baigné là-dedans. Ouais, ça m'a toujours semblé naturel, en fait, je pense, tu vois. Donc j'ai connu aussi les côtés assez difficiles de la vie d'artiste, tu vois, c'est les déboires et tout, c'est un truc qui pour moi est assez palpable, quoi, tu vois, depuis que je suis petit. Mais donc ouais, j'étais en peinture dans une école d'art qui pour moi, en fait, finalement était intéressante, mais presque trop déconnectée, en fait, de ce qu'est vraiment la réalité. Tu vois, une fois que t'es artiste, tu vois, donc c'est beaucoup un rapport hyper intellectuel à la création, dans l'art plastique, dans l'art contemporain, c'est un truc qui est quand même très très présent, quoi, tu vois, avec finalement justement peu de moments de collectivité, un truc qui est très individuel. Et en fait, si tu veux, bah moi j'écoutais du rap depuis que j'étais adolescent, j'étais en galère de thunes, j'ai arrêté l'école, j'ai commencé à travailler dans un bar, et puis on a commencé à faire du son ensemble, et si tu veux, alors que je peignais depuis des années, et que je pense que j'étais quand même... Enfin, je me voyais vraiment faire ça, en fait, tu vois. Ouais. J'ai quitté l'école et on a commencé à faire ça et on est tombé dans un truc où on est tombé en amour direct en fait de l'énergie qu'on arrivait à créer, tu vois. Nous-mêmes autour de ce truc, c'était des moments très simples en studio, on enregistrait un son le mercredi, le vendredi on allait avec nos couplets parce que on jouait pas nos morceaux, hein. Enfin tu vois, c'est des dizaines et des dizaines d'open mic, de concerts éclatés où presque on payait pour venir jouer, quoi. Enfin, ouais. Tu vois, pendant longtemps quand même, hein, tu vois. Et puis, mais juste, tu sais, ce truc, on a 20 berges à ce moment-là, tu vois. Donc, il y a un truc où on a une énergie de ouf. Et en fait, je crois qu'on sent, on a l'impression qu'il y a un truc à faire, tu vois, sans savoir ce que c'est, tu vois. Le truc à faire, on sait même pas si c'est l'opportunité de pouvoir en vivre un jour.
T'aurais fait du rap s'il n'y avait pas eu cette émulation comme ça de groupe?
Bah, moi, je crois que depuis que j'étais ado, j'avais envie de rapper parce que j'étais un gros auditeur de rap, surtout du rap français. J'ai beaucoup écouté le son des années 90 quand j'étais gamin, tu vois. Donc aussi un rap très social qui raconte un truc important, enfin tu vois, aussi de point de vue qu'on n'entend pas souvent et d'une façon
qu'on n'entend plus trop non plus
et qu'on n'entend plus trop et d'une façon très souvent très imparfaite mais quand même vraie, enfin tu vois,
authentique, ouais,
authentique, tu vois. Et il y avait ce truc où je me disais tiens, je crois que c'est comme ça que commence plein d'artistes, c'est l'envie d'amener sa touche en fait, tu vois, de quelque part essayer de faire un petit peu ce que t'aimerais entendre. Tu vois, je crois que c'est ça moi qui m'a motivé à faire du rap, alors que en vrai à ce moment-là j'étais pas le stéréotype de ce qu'est un rappeur, enfin tu vois.
C'est-à-dire tu rentrais pas dans les codes du rappeur.
Dans les, bah, parce qu'à ce moment-là ils étaient aussi assez fermés, enfin tu vois, genre je te parle de, on est en 2000 quand je suis ado et que j'écoute ça, on est en 2008. Ouais. Tu vois, donc
c'est quoi, c'est une question de vie, de parcours, bah, de légitimité, de société, c'est une question, de...
Ouais. Oui, bah c'est une question de société. Enfin moi comme je te dis, j'ai grandi en voilà des hauts et des bas, mais en tout cas les déboires de la vie d'artiste je les ai connus, mais même je suis éduqué dans une ville, tu vois, par des blancs, dans un cadre qui est sain, enfin tu vois, genre je connais pas d'histoire de racisme, je me sens pas, même si on galère financièrement, je vis pas ça comme un ostracisme en fait, tu vois, parce que j'ai l'impression d'être libre, que mes parents arrivent à me donner cette vibe, enfin c'est une chance, tu vois, mes parents, je leur dois beaucoup, je les remercie pour ça, tu vois. Donc il y a juste un truc où, ouais, je sais pas, genre j'ai l'impression que ça appartient pas ça m'appartient pas de dresser des messages de société à ce moment-là, et puis surtout j'ai 16 ans, enfin je suis un ado, enfin tu vois ce que je veux dire.
Mais enfin, pour de vrai, c'était un truc qui a beaucoup, qui était très prégnant sur le rap français, même des années 90. Je veux dire, à une époque, ouais, si t'avais pas connu la vie en banlieue ou tu venais pas de cité, t'avais peut-être des problèmes de légitimité à l'époque. Tu vois, à dire, est-ce que vraiment j'ai ma place dans cette musique puisque j'ai pas vécu ce qui semble être le cursus standard de l'artiste. Donc des familles nombreuses qui vivent en cité, machin, qui galèrent, la CAF, les machins, etc. Et il y a plein de gens, je pense, qui auraient aimé se lancer à cette époque-là et qui l'ont pas fait parce qu'ils se disaient ça fit pas avec ce qu'on attend.
Est-ce que, question, je l'affirme pas, je sais pas, mais est-ce que c'est, au fond ça existait pas déjà, cette diversité, mais c'est juste qu'elle était pas du tout audible, mise en avant, etc.
Ça existe moins qu'aujourd'hui, je pense.
En vrai, c'était compliqué.
De toute façon, c'était compliqué, mais c'était pas un vrai problème non plus. Enfin, je pense qu'en fait, c'est juste c'est un truc qui a évolué avec son temps. Aujourd'hui, c'est sûr que comme il y a eu plus ou moins de production, il y a des mecs qui ont commencé à faire du rap à Caen, par exemple, et puis ça a donné Orelsan, enfin, tu vois. Ouais. Mais c'est juste que...
Oui, mais avant ça, il y avait eu la scène rap alternative, mais c'est plus années 2000.
Oui,
mais
même
si tu prends, c'était les pionniers justement, ont proposé à la fois des discours, des backgrounds différents, etc.
Même si tu prends Orelsan, il a joué de sa condition pendant longtemps. C'est-à-dire que le fait que lui, il avait grandi en pavillon, machin, c'était limite un ressort comique dans ses textes. C'est-à-dire qu'il se sentait quand même obligé de pas de s'en excuser, mais en tout cas de désamorcer immédiatement le truc. Pour dire non mais j'ai pas grandi en cité, je suis pas une Kaira, machin, etc., comme s'il fallait le dire pour éviter qu'on te le remette dans la gueule.
Ou
tu vois,
est-ce que c'est pas tout simplement qu'il s'intégrait à sa manière dans la culture du rap, qui est aussi de parler tout simplement de son vécu, et que donc il fallait bien l'aborder, et autant que ce soit frontal, tu vois.
Ouais, mais tu pouvais le faire aussi sans essayer de désamorcer une potentielle bombe, tu vois. C'est ça qui est marrant, c'est que quand on regarde NTM par exemple, il a fallu pas mal de temps pour qu'on réalise que Kool Shen, il avait pas grandi dans un quartier, et qu'en fait lui il a grandi dans un pavillon à côté d'un quartier, tu vois. Et ça, c'était pas un truc qui mettait dès le départ dans ses textes. Quand t'écoutais Kool Shen rapper, t'avais l'impression qu'il avait le même vécu que Joey Star, tu vois. Il mettait pas la diff, comme si vraiment venir d'une famille sans histoire, de la classe moyenne, en fait, ça t'enlevait une légitimité dans, et en fait
plutôt que de le dire et dire bah ouais alors tu vois j'ai pas connu ça mais c'est pas grave, bah tu le disais pas du tout, tu sais, c'est genre n'en parlons pas, comme ça sera pas un sujet. Et ça c'est vrai que ça a beaucoup changé depuis Aurel San en France, Eminem aux États-Unis, et puis depuis globalement que pas mal d'artistes utilisent leur vrai nom et vrai prénom comme nom de scène, ouais. Tu vois, je pense que même pour la communauté par exemple afro-américaine, je pense qu'un mec comme Kanye West a fait tomber plein de barrières, parce que même les afro-américains de classe moyenne qui avaient pas grandi dans des ghettos etc se sentaient pas légitimes de proposer leur image de ce qu'est la vie quand t'es justement pas un gangster, pas un bad boy, juste un mec qui essaie de t'en sortir, tu vois.
C'est quoi pour toi justement le tournant où tu te dis ah bah en fait peut-être que j'ai ma place dans le rap? Parce que c'est des figures qui t'ont inspiré, c'est...
Qu'est-ce que c'est putain, c'est une vraie question. Mais je pense qu'il y a quand même je pense qu'il y a un 995 à l'époque quand même qui tu sais, c'est juste un truc qui est proche de nous. Et en fait, ils le font juste cool, simple, ça a l'air... en fait, l'air de rien, le fait que les moyens de production changent aussi, en fait, et que ça devient possible juste de le faire...
Tu veux dire qu'avec un home studio...
Avec un home studio, avec... Tu sais, il y a les Canon D5 là qui arrivent aussi, donc tout le monde commence à faire des clips, et en fait, ça, avec déjà, 5D, ça donne trop envie, en fait, tu vois, à ce moment-là de... Mais au début, c'est très naïf, hein, tu vois, ce qu'on fait, c'est très naïf. Donc là, on intellectualise sur le fait de qui est légitime et tout, c'est important, je pense qu'en réalité... la question n'était pas vraiment à l'époque, hein, tu vois, genre c'est juste je crois qu'il y a juste la seule question qui se pose, c'est juste qui a envie de le faire, qui le fait. Je pense que si à un moment il y a des gens qui portent cette culture pour certaines raisons, c'est parce que justement il y a certaines raisons et que tu vois.
Et surtout qu'à la base c'est quand même l'essence du hip-hop, tu vois, de prendre le micro et de dire des trucs et soit effectivement on disait non, il faut vraiment que tu véhicules des propos sociaux. D'autres qui disaient non, il faut vraiment que tu parles de ton vécu. Et surtout s'il était dur, il faut que tu parles de ton vécu. Alors qu'à la base, le hip-hop, c'est prendre un micro et faire un 16 mesures sur une canette de Sprite. Tu vois?
Oui.
À la base, c'était quand même la décomplexion la plus totale. Après, tu fais ce que tu veux.
Comme j'ai toujours vu les débuts du hip-hop, et en fait, on le retrouve dans toute son histoire, c'est... The Message a un peu brouillé les pistes en se disant dès le début le rap est social avec un discours très, c'est ce qui est pas le cas en fait.
Non, pas du tout.
Ça naît dans les blocs parties,
c'est des blocs parties. Ouais.
Par contre, je pense que y a pas forcément ce discours clair politique revendicatif etc, mais que l'affirmation de soi c'est dans les bases du hip-hop. Ouais. Parce que justement ça vient de populations qui n'ont pas de place dans la société et qui ont besoin, ne serait-ce que ça, on le retrouve dans le graffiti à fond, c'est mettre juste son nom sur un mur, tu vois, dire je suis là. Et il y a quand même ce truc, c'est pas non plus parler de tout et n'importe quoi, c'est de dire aussi je suis.
Il y avait les deux en fait. Dès le départ, il y avait les deux scènes, tu vois. T'avais Public Enemy d'un côté et puis t'avais Run DMC, mais eux ils étaient déjà gros, mais t'avais plein de rappeurs qui étaient légers, tu vois.
Oui, la légèreté, je suis d'accord.
Et en fait ça s'est poursuivi dans les années 90 aux États-Unis, t'avais à la fois Snoop ou Dr. Dre qui pouvaient parler de la vie à Compton ou à Long Beach, et puis t'avais Skillo qui chantait I Wish et qui disait que lui ce qu'il voulait c'est être plus grand pour être basketteur et serrer des meufs, tu vois. En fait ça coexistait, ça posait pas trop de problèmes, mais ça restait dans une certaine, c'était des Afro-Américains qui parlaient. Et effectivement il y a des rappeurs qui se disaient moi j'ai pas vécu exactement ça, est-ce que je peux me permettre de prendre le micro et d'en parler. Moi je pense que oui, en fait.
Ce qui est certain en tout cas, c'est qu'il y a un tournant qui s'est opéré dans les années 2010 et aujourd'hui, et que le rap n'a jamais été aussi divers. Et pour revenir un peu à ce dont on parlait, tu sais, par rapport au collectif etc, donc on comprend que pour toi c'est un truc essentiel quand t'as démarré. Est-ce que encore aujourd'hui t'as un regard sur la place du collectif dans le rap? Est-ce que c'est plus facile, plus difficile pour une carrière? Est-ce que c'est un atout parfois, des avantages, je sais pas.
Je pense que je crois que, enfin, pour parler du mouvement en soi, je crois que ça en fait moins partie aujourd'hui effectivement, le côté collectif, que ce que ça a pu faire partie. De toute façon, juste pour clôturer ça vite fait, mais je trouve que c'est intéressant la notion de ce qu'est le hip-hop, hein, tu vois, genre. En réalité, ça faisait plus partie du hip-hop, et je crois que moi j'ai grandi dans la génération qui a vu un peu ce mot disparaître, tu vois. Moi j'ai grandi je faisais du tag quand j'étais adolescent, tu vois. On allait sur des events où il y a des gens qui rappaient, qui faisaient du grave, qui dansaient, enfin, tu vois. Aujourd'hui, c'est marrant, mais tu sais, ça existe plus du tout. Je suis pas du tout nostalgique de ça, hein, enfin en soi, tu vois. Mais je crois que cette notion-là, de façon générale, elle a un peu disparu dans le rap. Il y a beaucoup plus, c'est vrai, de carrière solo. Il y a moins l'idée. Enfin, les artistes aussi se réunissent différemment, en fait, mm-hmm. tu vois, autour de la musique. Ouais. Mais en tout cas, en Belgique, ça a beaucoup compté. Je pense qu'il y a eu ce truc, mais qui a beaucoup été raconté hein, dans les médias par ouais. cette génération justement, où en fait, on a senti qu'il y avait un truc à faire. Il y a eu des premiers succès d'Amso, Hamza, Roméo, qui ont des morceaux qui pètent en France. Et puis en fait, ouais, je crois qu'il y a tout le monde sent vraiment qu'il y a une sorte de porte qui s'ouvre. Et puis cette porte, en fait, c'est surtout une curiosité des médias français qui se dit putain, il se passe un truc en Belgique. En fait, il y a plein de rappeurs. Ils ont tous l'air de se connaître. Ils ont tous l'air sympas. Tu vois.
Ouais, comment tu juges l'explosion de cette scène, en tout cas en termes de visibilité, parce qu'il y avait du rap belge avant.
Il y avait du rap belge, bien sûr, ouais, et très sérieusement, ouais.
Ouais. Ouais. Et pourquoi, tout d'un coup, il y a un truc qui s'est passé? Est-ce que c'est avant tout médiatique? Parce que, avec l'ordre du commun, mine de rien, vous vous inscrivez quand même un peu. Parce que vous êtes contemporain de l'émergence de Damso, d'Amza, de Jean-Jacques et Caballero, tu vois.
Isha,
etc. Ouais. C'est à peu près votre époque aussi, mine de rien.
C'est complètement notre génération, hein, ouais.
Puis c'est même votre. Enfin, il y a le côté dont tu parles qui est que, en fait, on avait l'impression quand on voyait les rappeurs belges, qu'ils se tiraient pas dans les pattes, en fait. Qu'il y avait un truc de on y va ensemble.
C'est ça la spécificité, ça serait ça. Pourquoi il y a eu ce truc?
Écoute, je sais pas. En tout cas, visiblement, ça avait l'air de ça parce que c'est vrai qu'en France, les gens disaient beaucoup ça. Je crois qu'il y avait ce truc pour nous qui semblait assez naturel en fait, juste que tu vois, on s'écoute, on soutient. C'est une petite ville, Bruxelles. Les gens se croisent beaucoup dans les concerts. En fait, c'est surtout ça le truc, c'est qu'on s'était tous croisés dans des concerts galères. Tu vois. Tous, non mais c'est vrai. Ouais. Et en fait, pendant des années, on se voyait rapper dans des open mic, dans des petits concerts. On était tous, si tu veux, un peu des starlettes locales, tu vois. Mais tous, on avait un boulot, quoi. Enfin, tu vois.
Ouais.
Donc les mecs de la Smala, bon, aujourd'hui, on les entend un peu moins aussi, mais les mecs de la Smala, c'est des mecs qui ont compté énormément dans le paysage du rap belge. Ils tournaient à Dour et tout. Il y en a. Enfin, ils avaient tous un boulot, quoi. Tu vois, un petit boulot sur le côté. Moi, j'étais barman. Même au moment où on tournait en Belgique, hein, enfin tu vois, on tournait beaucoup, quoi. On faisait des concerts tous les week-ends et tout, mais j'étais barman et la Smala, il venait en rendez-vous au bar, moi j'étais là avec mon tablier, je le servais, enfin tu vois. En fait, on se croisait tous dans des contextes hors de la musique et donc quand la porte s'est ouverte et qu'on a vu que il y avait un attrait en fait général aussi pour la scène, je crois que tout le monde était content juste. Tu
ouais,
vois
ouais.
Et donc franchement, il y avait une super belle dynamique pendant ces. Enfin, je suis pas un nostalgique.
Non, mais t'as le droit de dire que c'était cool aussi.
Mais
hein.
c'est vrai qu'il s'est passé un truc où tu sens quand même que ouais, il y avait une chouette émulation. Et puis il y a toujours de la bienveillance. Hein. Enfin, tu vois. Ouais.
Tu penses qu'il y avait aussi des particularités esthétiques, sonores, visuelles, etc., qui ont fait que cette scène a marqué et a mieux marché que les générations précédentes en Belgique. En tout cas, moi, je parle du prisme français.
Hein, ouais. Mais écoute, je sais pas, moi, en tout cas. De l'intérieur, j'ai l'impression que il y a un truc en tout cas avec cette génération, c'est que tous les artistes ont un peu une couleur particulière quand même, et que sur peu d'artistes, tout le monde arrive à se démarquer d'une façon qui est simple et qui a l'air assez sincère. Quand tu regardes le paysage français où il y a énormément de rappeurs quand même, il y a beaucoup de, enfin pas des copycats, mais tu vois, de gens qui s'influencent beaucoup, de gens qui inventent pas grand chose.
Non mais c'est vrai, hein.
Enfin voilà, j'ai l'impression. Et en fait, sur cette petite génération, alors franchement, ça veut pas du tout dire que la musique était parfaite, hein. Tu vois, parfois très loin de là. Moi je peux revoir. Enfin, j'ai du mal à écouter des morceaux à nous qui ont très bien marché à ce moment-là et qui ont été importants pour nous. Enfin ouais. Tu vois. Enfin dans notre carrière, tu vois. Mais je sais pas, je crois qu'ils avaient un truc qui était que t'entendais pas en France, à mon avis.
Okay. Déjà, il y avait une démarcation. Tu penses vraiment un truc propre.
Ouais, il y avait des identités qui.
Je pense franchement que quand tu regardes Isha, quand tu regardes ouais. Lasmala, quand tu regardes Kabajiji, Damso, Hamza. Bon, déjà, si tu retires Damso, Hamza, c'est que des gens qui se connaissent super bien ouais. et ils ont tous un son vraiment différent. Damso, Hamza, c'est des ovnis.
Ouais.
Enfin, tu vois. Roméo, il est arrivé avec son truc aussi. En fait, c'est ça. J'ai l'impression que c'était peut-être un peu ça le truc, c'est qu'en tout cas, ouais, tu pouvais découvrir une scène et entendre plein de sons différents. Tu vois.
Ouais, c'est vrai que ça
joue. Une petite scène avec plein de sons différents. Ouais.
Parce qu'il y avait pas autant de, tu vois, chez nous, c'est la trappe qui a tout pris en fait, et tout le monde s'est mis à faire de la trappe et des dérivés. Mais
tu peux même dire dans le monde entier. Hein,
oui, bah ouais, bien sûr. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, moi, qui avais, tu vois, lâché le rap en français, et pas le rap français, mais le rap en français. J'y suis revenu. Alors évidemment, il y a eu la partie l'entourage 1995 effectivement
parce que à un moment donné c'était bien un hommage au boom bap, etc. Donc pour les vieux c'est quelque chose qui leur parlait, mais c'est vrai qu'après moi j'ai pris le virage et je me suis retrouvé à écouter du rap belge. Ouais. Alors que tu m'aurais dit 10 ans avant tu verras tu kifferas la scène belge, j'aurais fait ouais pourquoi, tu vois, on est à Paris, il y a tout ici.
Tu connaissais toi des groupes belges avant cette vague? Peut-être que tu pourrais en citer quelques-uns d'ailleurs, des artistes rap belges qui ont été marquants, ou mais Daz peut-être qu'on connaît.
Benny B.
Ouais.
Mine de rien.
Oui, c'est vrai.
Qui est un super gars, Benny B. Ouais. Shout out, en vrai.
Voilà, Benny B.
Et qui raconte très bien son histoire. C'est un mec vraiment intéressant parce que lui, il a vu, avec toute cette génération, et tu sais, ils sont encore tous dans le mouvement à Bruxelles, hein. Enfin, tu vois, des mecs qui ont rappé avec Benny B dès le début, enfin, ou qui étaient DJ et tout, ils sont encore là, enfin, tu vois. Et les histoires, elles sont trop drôles. C'était vraiment, vraiment autre chose. Mais, tu vois,
moi j'ai en tête James Dino par exemple, qui avait eu quelques succès en France.
Merci. J'allais avoir une sèche, tu m'as aidé. Ouais. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc des gens de la génération d'avant, bah il y a James Dino, Scylla, il y a Gandhi. Et c'est vrai que cette génération, ce que certains d'entre eux racontent, c'est l'histoire de James Dino aussi qui est devenu très important à un moment, hein, tu sais, qui est arrivé avec Le Fils du Commissaire, avec Les Blancs savent pas danser, qui était des hits, hein, tu vois, je crois que même en France ça a cartonné, vous les connaissez les morceaux. Et en fait, si tu veux, à ce moment-là, il y a eu un peu l'espoir que James Dino ouvre cette porte vers la France. Et en fait, bon, je pense que sa signature c'est mal passé, j'ai pas le détail de l'histoire, mais je pense que lui finalement voilà, ça l'a pas fait en fait. Je crois qu'il a pas fait sa tournée, il a pas vraiment fait la promo de son album. Le deal s'est pas passé exactement comme prévu. J'ai pas les détails, je vais pas dire de bêtises. Mais du coup, il y a eu un peu il y a eu un momentum en fait, si tu veux, qui s'est pas passé. Et ce qui est marrant, c'est que c'est pas raconté par lui ça. Enfin, tu vois, c'est les Gandhi qui peuvent raconter ça, les Scylla. Il a failli se passer un truc. On a cru que en fait, ça allait être le moment où le rap belge allait être capté par la France. Et voilà, ça l'a pas fait quoi, tu vois. Et donc, nous, notre génération, elle s'est organisée aussi dans leur sillon, quoi. Enfin, tu vois, on était hyper inspirés par eux. Moi, j'écoutais... Bon, aujourd'hui, je le connais assez bien. Enfin, tu vois, Scylla, c'est un mec que j'écoutais dans les premières bagnoles qu'on prenait quand on avait 17 ans, tu vois. Et c'était une icône, quoi, pour moi, de la ville, quoi, tu vois. Et c'est des gens qui faisaient de la musique hyper sincère, qui avaient... je trouve que Gandhi, c'est aussi un putain d'auteur qui a aussi inspiré toute la génération d'après. Damso parle souvent de Gandhi... Frénétique aussi, plus récemment, parle beaucoup de Gandhi.
Moi, j'ai l'impression qu'en fait, vous avez commencé à pouvoir marcher en France à partir du moment où vous vous êtes pas demandé s'il fallait pas marcher en France. Tu vois?
Oui, c'est ça. On était dans leur sillon et, si tu veux, ils nous ont donné une envie, quoi, en fait. Enfin, moi, en tant qu'auditeur, c'est ça aussi, c'est des mecs qui m'ont rendu le truc très palpable. C'est des mecs de Bruxelles, en fait, qui rappent, tu vois. Et donc, je pense qu'assez vite, plus jeune, en fait, on a commencé à s'organiser. Et puis en fait ouais c'est ça, ça a donné
mais conquérir la France, le marché français, ouais, c'était pas une fin en soi.
Non, c'est en fait on savait pas quelle était la fin. Moi je savais pas quelle était la fin. Moi je pensais juste qu'on rappait, c'est tout, tu vois. Et en fait on espérait juste faire des concerts et chaque concert était une victoire, tu vois. Ça pour le coup, moi je rêvais de jouer au Botanique qui était la salle à côté de laquelle je vivais. Ça arrivait très vite de jouer à Couleur Café, ça arrivait très vite, puis après il fallait se réinventer quoi, tu vois. Mais oui, dans cette génération, il y a eu des labels comme Back in the Days tu vois, qui sont des labels qui ont compté et qui ont été aussi je pense inspirés par la génération d'avant, quoi. Enfin,
tu veux dire qu'il y a certes une scène artistique, mais il y a aussi une organisation, un entourage nécessaire aussi pour arriver à structurer tout ça.
Oui, bien sûr. Ouais. Ça, c'est sûr que je pense que sans le fait que aussi des gens aient envie de se professionnaliser avec le rap belge, parce que personne n'avait vraiment fait le pari de le faire en fait avant, tu vois, ça a pas pu se faire. Et donc en fait, il y a beaucoup de gens il y a beaucoup de managers qui étaient des amis d'artistes qui sont devenus des professionnels de la musique ou même des patrons de labels. Parce que ils étaient dans cette énergie collective, simple, naturelle, tu vois, entre potes, en fait, à faire un truc, quoi, tu vois. Ouais. Back in the days, notre label, La Brique, c'est ça aussi, hein, tu vois, nos managers, ils sont producteurs, ils sont devenus professionnels en même temps que nous, quoi, enfin, tu vois. Le management de Damso, c'est ça aussi. Ça a été le cas de beaucoup d'histoires à Bruxelles, quoi.
Vous savez quoi, les gars? Je pense que c'est le moment idéal pour écouter un peu ce que vous faites, ce que vous faisiez.
Ah, d'accord, ok.
Bah oui. Est-ce que t'as des morceaux que t'apprécies particulièrement avec l'ordre du commun? Peut-être un tout petit peu chronologique, tu vois, on peut se mettre au fur et à mesure de l'émission, deux, trois morceaux. Un plutôt ancien dont t'es particulièrement fier.
Un plutôt ancien dont je suis particulièrement fier.
Écoute,
tu sais quoi, mais...
Parce que...
Un morceau important, ouais. Alors un morceau important, vas-y. C'est La Poignée de Punchline.
Ok.
Qui est un track... qui a été une première impulsion pour nous, qui est sorti en 2014, je crois. Il est pas sur Spotify.
Ah, il est pas sur Spotify. Attends, on va le trouver, on va le trouver.
Sur YouTube. C'est un freestyle, en fait.
Ok.
Là, tu vas voir, c'était drôle. C'est une vidéo qui est sortie sur la chaîne, Give Me Five, qui est un label, belge, qui diffusait beaucoup de freestyle et tout, surtout à cette époque, et qui a,
ouais. Ok, Give Me Five, je suis dessus. Allez, on se met un petit extrait. On remercie Give Me Five pour nous donner l'autorisation de diffuser.
Bien
ça.
Sûr. Je suis sûr qu'il nous la donnera. Big up départ.
Allez, j'avance un tout petit peu.
Mieux que Jean Reno dans Wasabi. Cognac, 1400 carats de pierre hexagonia. De quoi refaire une face à Quasimodo. La première carte est un 2. La mise tourne sur le tapis. Taciturne et rusé comme
Pacino.
Mon adversaire est en
2014-2013.
Balle de nègre dans les cousins.
C'est plus efficace. 2013.
Ton trèfle pique ton cœur. Docteur, veuille écoute laboratoire.
Allez, on va essayer de trouver un moment où tais-toi.
Allez, mets l'oxlave.
Ça, c'est toi.
J'emprunte le bon chemin. Je sais que mes vagabonds de soirée n'ont pas besoin de me compter sur leurs mains. Une électrode placée dans le torse en guise de cœur. J'amorce le détonateur quand j'attrape le micro.
Ok. Bon, là, on est clairement dans le boom bap.
Ouais. Ouais, pas du tout, monsieur. Très fort, hein, ouais.
Très dans la démonstration technique aussi.
Bah ouais, on aimait ça, je pense, ouais. On n'avait pas trop le sens du refrain, quoi, à l'époque. C'était vraiment le couplet, le rap technique à fond,
ouais. C'est cool, hein. Bonne énergie et tout.
Bah, c'est le fait kiffer.
Bah, clipé en noir et blanc dans un wagon, tu vois.
On est dans un métro, c'est vrai, dans ce clip.
Ouais, ouais, on sent le côté, l'influence new-yorkaise, tu vois.
Le côté real.
Ouais, ouais.
c'est quoi ensuite les, si on peut trouver un peu des espèces de jalons dans votre carrière, des moments marquants, peut-être des morceaux. Alors, je sais qu'il y a un morceau qui a quand même été un tournant, j'imagine, pour vous, c'est Apollo.
Bien sûr,
qui était un gros tube. Mm-hmm. Est-ce que avant ça, il y a des trucs qui ont aussi été un peu marquants, qu'on pourrait s'écouter quelques extraits rapidement?
Le chill?
Oui,
ça prend vite déjà ou pas pour vous, franchement?
Ben nous, on a l'impression que ouais, de fou en fait. Ouais. Alors que pas du tout. Okay. Tu vois. Okay. Ben en fait, dans le sens où je te dis, nous, on est des optimistes à ce moment-là, de ouf. Donc tu vois, chaque truc qui vient, chaque opportunité. Enfin, en fait, c'est juste qu'on nous donne un micro, on trouve ça vraiment fou, quoi. Tu vois. Donc et on nous le donne souvent à ce moment-là. Donc ouais, on est très souvent contents. Donc c'est et puis après bon, en fait ça a pris du temps avant qu'on se professionnalise, hein, parce que là on est en 2013, on fait encore beaucoup de petits concerts. Moi, je te parlais tout à l'heure de petits concerts, on fait des trucs, on joue à Liège, on est payé 50 €, et sur scène il y a Kaba, Gigi, Lasmala, James Dino, nous, et je crois que tout le monde est payé 50-75 €, enfin tu vois. Et donc le deal à l'époque, c'est que nos concerts là on banque, et puis quand on a 250 € on fait un clip, quoi, tu vois. Donc je pense, en fait, comme plein d'artistes, tu vois, c'est vraiment un classique début, quoi. Et puis ensuite donc on tente quand même pas mal avec cette EP, avec celui d'après aussi, et puis je crois qu'il y a un moment en 2015 où on se prend quand même un coup de mou et on, je crois qu'on hésite à
arrêter.
Je sais plus si on hésite à arrêter, mais en tout cas je sais qu'il y a plus de dynamique, quoi, tu vois. Et moi je reprends des études en Sciences Po, figure-toi. Okay. trois semaines comme ça. trois semaines en Sciences Po, c'est 2016 je crois plutôt, et puis c'est ça. Et puis après, en fait, il se passe un truc, et en fait on sent que ça va repartir et que il faut qu'on bosse, quoi, tu vois.
Au niveau du groupe, parce que c'est aussi ça le collectif, c'est il y avait la même énergie chez les trois membres, où il y avait un qui tirait les autres, tu vois, comme on le voit souvent dans un groupe, t'as toujours quelqu'un qui est un peu plus motivé que ses potes, et qui parfois les porte un petit peu, tu vois, pour
Mais oui, c'est sûr, mais ça, c'est des rôles qui changent aussi, je pense.
Ouais, tu vois, la dynamique
en fonction du temps, mais surtout, tu vois, aujourd'hui tu prends un mec comme Swing, aujourd'hui c'est un gars, il est complètement professionnel dans la musique, c'est un grand chanteur, c'est un grand auteur. Ouais. Je pourrais dire la même chose de Primero. Enfin, moi, j'ai beaucoup d'estime pour les mecs avec qui je fais de la musique, tu vois. Mais ils étaient étudiants à l'époque là dont on parle, tu vois. Swing, moi, je me rappelle qu'en 2014-2015, j'ai des conversations avec lui dans un studio et je dis, faut qu'on se bouge, frérot. Enfin, c'est ça. Ouais. Et il me dit, ouais, je suis pas sûr que j'ai envie de vivre de la musique. Enfin, tu vois.
Ouais, d'accord.
Enfin, en fait, que c'est venu tard, parce que je t'ai dit, je pense qu'on a toujours été des mecs quand même relativement terre à terre aussi, tu vois. Ouais. Et
ça dure qu'un temps.
Non, pas comme ça. Plutôt dans le sens où, en fait, c'est ça. On vient aussi d'une ville où, à ce moment-là, ça semble impossible à faire.
Ouais.
Tu vois? Avant que vraiment, enfin, même quand on commence à faire des petits concerts ou tout, on prend chaque concert pour un succès.
Ouais.
Alors qu'on gagne pas d'argent. Mais, on sent quand même que, enfin, pour nous, il y a un gap qu'on n'imagine même pas. Enfin, vraiment, tu vois. Moi, je me rappelle, à ce moment-là, je vis avec mon manager et on parle du fait d'éventuellement se payer un mi-temps un jour. Enfin, l'équivalent d'un mi-temps, genre réussir à se payer 800 balles par mois.
Ouais.
Moi, il me parle de ça, frère, je suis presque ému. Tu vois. Je suis en mode, tu crois que ça va être possible? Tu vois.
Ouais.
Et en fait, je crois que peut-être 12 mois plus tard, on en vit. Enfin, tu vois. Mm. On commence à en vivre, en tout cas.
Tu vois, mois plus tard, tu parlais de 2016 à peu près, etc. Donc,
oui, ça doit être ça, ouais.
On arrive sur Apollo à peu près 2017.
C'est ça, en fait, ouais.
Je prends ça comme un peu exemple.
Mais... Et voilà. Et du coup, c'est ça, après, le vrai tournant, c'est, parce qu'on sort des clips en attendant, je te dis, on continue à tourner, mais le vrai tournant, c'est ça, c'est quand on sort Zeppelin. Dessus, il y a Apollo, et puis là,
c'est avec ça que je vous ai découvert, moi. Tu vois,
voilà,
c'est
vraiment
un petit extrait.
Oh bah oui,
allez. Donc là, vous étiez en feat avec Romeo Elvis,
ouais.
Parce que dans votre carrière, c'est vrai que vous avez beaucoup mené votre carrière presque en parallèle, en fait.
Complètement,
vous êtes monté ensemble.
Bon, d'ailleurs, on Roméo Elvis, bon, on l'évoque. Il y a eu des histoires, etc. Bon,
il a des
expliqué, etc. Ouais. Bon, en tout cas, voilà, c'est évoqué. Et Apollo, vous étiez en featuring avec lui, justement.
Moi, je suis tombé sur ce truc et j'ai fait, mais qu'est-ce que c'est que ça?
Ouais, le morceau est très cool.
Prod de Vaccin, qui est lyonnais.
Oh, un lyonnais.
Ouais, c'est peut-être pour c'est ça que ça marche, alors.
Ça prend de la coke dans le télo, mais ça parle du ghetto. Surtout ça, moi je m'interroge, bordel, je suis même pas de galop. Une tasse de thé des Kellogg's, du karité dans l'Elox. De mes
gars, le clip était très cool aussi, vraiment.
Je passe pas par quatre chemins, boy, je reste calme en quatre pépins. Quand j'ai besoin de force, je regarde les gars qui dorment, je rappe avec.
Ça, c'est un gros succès.
Ça, c'est un gros succès quand même, je pense.
Ce qui vous permet d'obtenir un nouveau public.
Je pense, ouais, entre autres. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que quand, oui, en fait, très probablement. Mais c'est vrai que je crois que dans le, sur le moment, on sait que c'est un morceau important.
Ok.
Ah, vous le sentiez déjà,
avant même de le sortir, tu veux dire, ou c'est en voyant un peu la résonance du
oui,
truc?
Oui, bah, je pense qu'avant, déjà, on le savait.
Ok.
Que, tu vois, que, de toute façon, on le faisait écouter au track. Parce qu'il y a Roméo dessus, mais je pense vraiment que c'est le meilleur morceau du EP.
Ouais.
Tu vois, et qu'il a plus un potentiel. Enfin, la prod, je pense qu'elle emmène, c'est vrai, la prod, elle emmène aussi les gens. Donc je crois qu'on sent juste que le morceau, après, voilà, je sais pas à quel point on imagine que ça va marcher. Après, voilà, ça, on n'a pas fait, on a fait single d'or en Belgique.
Ok.
Ce qui est sympa quand même.
Oh, c'est bien. Ouais. C'est bien. Je connais pas les.
Mais c'est vrai.
Mais
c'est vrai
paliers,
qu'il nous,
mais...
il nous amène à tourner beaucoup, beaucoup ce track et puis cette EP, quoi. Et puis à ce moment-là, il y a un vrai changement. Mais c'est aussi le moment, comme je disais tout à l'heure, où il y a vraiment aussi un attrait médiatique de la part de la France, tu vois. Et donc la promo devient très facile aussi, tu vois. Et on est là-dedans, quoi. Et on tourne et on kiffe à fond. Franchement, c'est année incroyable. 2017, année incroyable.
Bon, un an après, il y a Sapiens. Et puis en 2021, Avant la nuit, donc les deux vraiment albums que vous sortez. Est-ce que, pareil, il y a un morceau sur Sapiens que t'aimes particulièrement? En plus, ils sont assez différents, les deux albums.
C'est vrai qu'ils sont très différents, même.
Il y a un truc très... presque on s'enjaille un peu sur Sapiens, un truc très... presque naïf, un peu, tu vois, un truc de... Et sur Avant la nuit, là, on est sur un truc plus introspectif. Les sonorités sont complètement différentes. On s'éloigne un peu aussi, en plus, du truc chill, jazz, ouais. etc., pour des trucs un peu plus modernes et sombres. Enfin, je sais pas si c'est comme ça que tu l'analyses, hein, mais c'est à l'écoute, bah, moi, c'est comme ça que je l'ai vu.
Pas tout à fait, mais ouais. Non, mais si, je prends ton analyse, ok. Ouais.
Comment tu le vois, toi, différent entre deux albums? Ça, c'est intéressant, tu sais, quand on parle avec un artiste, c'était quoi les intentions? Comment tu le juges avec le recul, tu vois, ces deux albums?
Bah, écoute,
mis en parallèle.
Sapiens, quand on arrive sur Sapiens, on sent, là, c'est le moment où, en vrai, les choses sont quand même vraiment concrétisées pour nous, quoi. Ouais. Tu vois, on tourne, on en vit, on signe en maison de disque pour la première fois, bien.
Ouais.
Enfin, bien. Un montant qui nous permet de bien produire notre musique, de tourner des clips et d'être confort, quoi, tu vois. Mmh. Et donc, moment très important pour nous. Donc, on prend les choses très à cœur. Et cet album, on l'a fait avec pas mal de spontanéité. Puis en même temps, on s'est beaucoup pris la tête parce qu'on avait envie de transmettre un truc. Je crois qu'on avait envie de faire pas un concept album, mais d'avoir un mot fort, un truc qui nous représente, qui nous raconte, mais presque plutôt qui raconte notre point de vue, tu vois. Et je sais qu'à ce moment-là...
Pas si naïf que ça, donc je me trompe.
Ouais, je pense que cet album est pas si naïf que ça, ouais. Alors peut-être que je réécoute pas ma musique. Si je le réécoutais aujourd'hui, je serais peut-être très d'accord avec toi. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'à ce moment-là, on se sent quand même un petit peu dans un truc où on a envie de placer des symboles, de parler d'humanité. Enfin, tu vois, il y a quand même ce truc où... je pense qu'il y a des sujets qui sont abordés dedans... Bah, qui là, justement, je pense, reviennent plus, en fait, à mes influences, celles qui m'ont fait commencer le rap, tu vois, un rap plus social.
Conscient.
Bon. Conscient, en fait, c'est ni social, ni conscient.
Mais l'étiquette conscient, c'est un truc qui est toujours collé.
Oui, mais c'est véhiculé un peu une vision,
mais parce que c'est pas du rap conscient non plus, hein, tu vois, c'est pas du rap conscient, c'est du rap comme il y en a aussi plein qui existent depuis quelques années, je pense que, des mecs comme Nekfeu, en vrai, putain, j'essaie d'en trouver d'autres, j'aimerais bien en trouver d'autres, tu vois. Non, mais tu vois, c'est possible de faire du rap qui
technique, mais avec des
qui
messages,
dit quelque chose.
Oui, ouais. Et sans que ce soit collé rap moralisateur. Je pense qu'il y a on a oublié, en fait, avec le mot rap conscient, qu'il y avait une différence entre rap conscient et rap politique.
Ouais. Ouais, bien
et
sûr.
Et qu'un rap social, c'est pas forcément un rap conscient, enfin.
Bah, en fait, ça l'est, mais c'est pas sale, tu vois.
C'est pas, oui.
C'est pas parce que tu dis que c'est conscient que y a tout de suite tout le bagage qui doit aller avec, en fait.
Surtout que dans le rap conscient, on entend un peu moralisateur quand même.
Oui,
je pense que c'est pour ça qu'on a un peu effacé
cette étiquette là.
Voilà.
Ouais.
Mais du coup,
et qui en même temps implique aussi parfois de la prise de position un peu plus affirmée, un peu plus véhémente, et qui a sa valeur aussi
mais
par rapport
sûr.
À des trucs, tu vois, où bon mec, OK, tu dis un truc un peu démago qu'on sait tous, tu vois. Enfin
oui, bien sûr. Non, mais après, c'est pas du tout à dévaloriser. Ouais. Ce qu'on appelle le rap conscient, c'est très important. C'est des formes d'expression importantes. Mais donc, ouais, à ce moment-là, en gros, on a envie de faire un truc qui nous ressemble, tu vois. Et donc, on sort cet album qui s'appelle Sapiens. Et je pense que la pochette raconte, en fait, assez bien l'album, je trouve. Bon, c'est vrai qu'on est au son, ça se montre pas.
Non, mais on peut écouter un morceau éventuellement qui est un peu représentatif de l'album.
Un morceau qu'on pourrait écouter.
Est-ce que ce serait Homo sapiens? Est-ce que ce serait Antilope? Ce serait quoi?
Est-ce que ce serait Antilope? Est-ce que ce serait... Putain, c'est une vraie question, ça. Fais voir un peu la tracklist.
Je peux te montrer à toi.
Mets téléphone.
Téléphone?
Ouais, mets téléphone, ouais.
Allez, ça marche. On s'écoute
ouais,
ça.
Ouais, téléphone, je crois qu'elle est marrante. Non, après, c'est pas représentatif de ce que je viens de te dire.
Ouais, bah c'est...
Dis-moi.
T'as raison, mets Homo sapiens.
Allez, c'est parti.
Sur la sonorité, déjà, c'est... C'est notre limonade, hein.
Ouais, par rapport à tout à l'heure, ouais.
Dans nos rues s'attirent, les puissants restent au chaud dans leur nichoir au sommet de la ville. S'il te plaît, me parle.
Bon, là, on voit que vous avez complètement intégré le côté rap plus chanté, un format peut-être entre guillemets pop, c'est-à-dire avec un refrain, machin, etc. C'est pas juste ça qui, quoi.
Effectivement.
C'était un truc
qui a changé de démarche un petit peu.
C'était une volonté, ouais.
Bah oui, bah tu sais, enfin tu fais un album, là on a l'impression que c'est vraiment il est temps de faire notre album quoi, enfin ouais. Tu vois. Après des années donc oui, on prend les choses autrement et on le pense différemment. Ouais, enfin c'est sûr. Et je pense que c'est un chouette album.
Et par rapport et avant la nuit, alors ça se passe comment? Et puis comme ça après on clôture un peu cette partie
ouais,
plus sur ton aspect artistique, on parlera un peu plus des médias, etc.
Bah, et puis après bah écoute, on se lance sur Avant la nuit, il y a le Covid qui tombe, hein, donc
okay.
On est dans un moment où...
C'est pour ça que le mood il est plus sombre un peu, vous êtes enfermé chez vous, non?
Mais, non, mais je pense que en vrai, malheureusement, on est devenu un peu plus sombre, je pense,
ouais.
Quand même, hein, tu vois. On n'a pas écouté nos vrais premiers tracks, tu vois, on n'est pas obligé, mais quand on a commencé le rap, à part la pointe punchline, on faisait beaucoup de storytelling, tu
ouais.
Vois. On était des personnes très naïves, mec. Très naïves. Très gentilles, très naïves. Et en fait, je crois que juste avec le temps, ouais, à la fin, on...
Vous avez pris de la bouteille et...
Ouais.
Ouais.
Et puis on avait envie
de... Vous étiez plus cynique, peut-être.
Un peu plus cynique, je pense.
Ouais.
Et puis cet album, il est quand même chaleureux, je pense, Avant la nuit, je crois.
Mm-hmm.
C'est quand même un album chaleureux.
Il est cosy, d'une certaine manière. Enfin, tu rentres dedans, c'est-à-dire,
il
mais...
Il est moelleux.
Ouais,
je crois qu'il est moelleux, ouais.
Ouais, il est
ça,
moelleux.
C'est vrai. Mais il y a un truc plus, plus désabusé, certainement. Enfin, un truc plus,
bah, après,
plus lourd, quand même.
Il s'est passé quoi? 7 ans, 8 ans,
Entre celui qu'on vient d'écouter juste avant, Homo sapiens, c'est quoi? C'est 3 ans?
C'est 3 ans? 2 ans?
Ouais, c'est 3 ans, ouais.
Ouais.
2-3 ans.
Après bon, en même temps ça sort, ça se trouve vous aviez enregistré pas mal de tracks.
Non mais
déjà.
c'est 2-3 ans. Non mais même entre l'écriture et l'écriture ouais. C'est 2-3 ans. Ouais, si ouais.
Et sur cet album, il y a des morceaux que t'aimes bien avant la nuit.
Bah écoute, bon, moi je...
Négatif, c'était un
morceau,
il a bien
négatif,
marché, hein.
Il est bien, je pense que le morceau ouais. Il est bien, franchement il représente bien l'album, ouais.
Allez, c'est parti. Ouais. Alors négatif. On est toujours sur l'ordre du commun évidemment.
Évidemment, bien sûr.
Sans la tristesse déjà un peu plus là.
Ouais, bien sûr.
Tu sens,
bien, le synthé désaccordé là, on le sent que
dans le noir, mes yeux s'écarquillent. Je vois les couleurs en négatif. C'est un peu pour vaincre la mort que l'on voudrait donner la vie. Le monde entier sous sédatif. J'ai comme un rasoir dans la gorge. Dans le noir, mes yeux s'écarquillent. Je vois le monde en négatif.
La vibe, hein, la vibe est encore changée, hein.
Tout à fait.
Je vois le monde en négatif.
Permet d'avancer un petit
tu
peu.
Sais, pour ramasser un tas de chèques, il suffit de trois gars d'éther. Si c'est vrai, ça ne l'est que jusqu'à preuve du contraire. Du coup, à quoi ça sert de vouloir avoir raison?
Bon, effectivement, changement esthétique.
C'est vrai.
Vous êtes conscient de ce rapport hein, au flow qui change de l'époque où il fallait packer le plus de phases possible dans les mesures.
Ah ouais, ouais.
Là, ça respire et tout, mais je veux dire, c'est une volonté consciente de faire ça.
Oui, oui.
Ouais.
Mais tu vois, ce qui est marrant, c'est que il y a ce truc vraiment de la musique et surtout du rap, de comment il a évolué, et surtout
ouais,
peut-être de notre camp, hein, tu vois, qui vient plus vraiment du boom bap et, mm-hmm. et aussi de cette musique qui se joue sur scène, en open mic et tout. Enfin, il y a quand même ouais. un truc où juste tu vois, quand tu prends des écoles, des mecs comme Damso et Hamza, je pense que c'est plus des mecs qui ont appris à rapper en studio, tu vois.
Ouais.
Et il y a notre école à nous où on est plus des mecs de scène et tout. Donc en fait, on se pose pas dès le début la question de comment faire un morceau. On se pose la question de comment rapper, tu vois.
Ouais.
Ce qui est pas forcément un avantage sur le long terme.
Tu vois. Ça marche au début,
en tout cas. Ouais. Mais tu vois, mais le truc, c'est que, en fait, ouais, il y a, je crois qu'il y a un moment où on se dit, putain, mais en fait, c'est pas la même chose, en fait.
Ouais.
Bon, assez tôt, hein, quand même, mais faire un bon rap et, tu vois, et bien, bien rapper, morceau, faire un bon track, c'est pas la même chose, quoi.
Ouais, carrément.
Et
l'importance
donc, en fait,
des silences, de bien sûr, ralentir, bon, de laisser respirer.
Je pense que sur Sapiens, on a déjà essayé de répondre à cette question, et même avant, hein, tu vois. Mais je crois qu'il y a ce moment où en plus, tu sens que avec le temps, les morceaux se raccourcissent, que même on a envie d'écouter autre chose.
Mmh.
Tu vois, un morceau des 90s avec trois couplets, quatre parfois.
Ouais.
Tu vois, ça me semble long aujourd'hui, quoi.
Ouais, bah,
tu vois.
Carrément, ouais.
Et donc, bah, je crois que c'est juste ça, en fait. Comme notre oreille a changé, donc on essaie de faire des morceaux, ouais, plus courts, plus ambiants, avec.
Mais ce qui est paradoxal, parce que du coup, les morceaux sont plus courts, et en plus, vous êtes plus lent dessus. Ce qui
en fait,
que...
non, les morceaux sont pas, au final, ne sont pas plus courts. En fait, c'est juste qu'il y a moins de lyrics.
Ouais.
En fait, c'est juste qu'il y a moins de lyrics. Ils sont pas plus courts.
Il y a plus d'espace, en fait.
Il y a plus d'espace, on laisse plus respirer, ouais. Tu vois. Et ouais, je crois que ça rend la musique parfois juste plus atmosphérique. Mmh. En tout cas, à ce moment-là, je crois qu'on est dans cette recherche, ouais.
Et vous vous inspirez aussi de ce qui se fait à côté, j'imagine ?
Bah non,
pas du tout.
Bah, il y avait quand même une petite vibe d'Amso.
De ouf.
Ah, ouais. Vous avez trouvé ça, ouais ?
Ah ouais.
Non, mais on s'inspire comme tout le monde. Franchement, en fait, on est trois, donc c'est vrai qu'on c'est très difficile de croiser fondamentalement les références. Tu vois ce que je veux dire ? C'est que on a.
Non, mais il y a des. Moi, je suis pas un expert en Damso et en Damsoïsme. Mais justement, peut-être que le fait que moi j'en écoute pas tant que ça, ben je vois encore plus les trucs qui sont repris, que même Booba a pris aussi d'ailleurs, hein, tu sais, cette façon de poser des mots sans le déterminant, ce genre de trucs,
ah,
tu
oui.
vois, de la façon d'articuler aussi les syllabes, etc. C'est quelque chose qui ressort et qui est assez, enfin pour moi en tout cas, qui est assez visible sur pas mal d'artistes, aussi bien de la scène française que de la scène belge. Et ouais, là clairement dans le négatif là.
Est-ce qu'il y a aussi...
Il y a une lumière qui s'allume, tu vois.
T'as senti ça?
Ouais,
je suis assez d'accord. Et peut-être d'ailleurs que, parce que on parle là de vos envies artistiques à vous, mais vous êtes entouré, vous faites appel à des beatmakers, j'imagine, etc.
Ouais.
Est-ce que vous travaillez toujours avec les mêmes personnes? Est-ce qu'il y a des trucs qui se partagent aussi au sein de cette scène belge? Est-ce que vous travaillez tous avec les mêmes beatmakers ou pas? Est-ce qu'il y a des trucs plus attitrés à certains groupes?
Les mêmes ingé sons,
etc. Ouais,
chef est-ce qu'il y a un truc sonore
qui pourrait expliquer aussi une uniformité, tu vois?
Mais des ingé sons, on s'en partage beaucoup, des producteurs aussi. Sur Sapiens et sur Zeppelin, c'était Vaccin.
Ouais.
Lyonnais Vaccin qui a tout composé. Très bon compositeur. Et puis sur Avant la nuit, en fait, je crois que ça s'entend très fort. On a changé d'idée, quoi, en fait. Et là, on a bossé avec plein de compositeurs.
Okay.
Donc, ouais, en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est pas forcément, ça a pas forcément été plus difficile d'avoir une couleur uniforme, tu vois. Ça, c'est produit par Sizi, ce qu'on vient d'écouter, okay. de Négatif. Donc, évidemment, il y a une vibe plus banger aussi. Enfin, tu vois, le mec, c'est ce qu'il fait, tu vois. Et nous, on a adoré faire ce track, tu vois. Donc, je crois qu'on avait envie, effectivement, de prendre un autre ton. Et en fait, simplement aussi de faire d'autres rencontres en studio, hein, tu vois. C'est pas qu'on en avait marre de bosser avec Vaccin. Je crois que on est un groupe et que, tu sais, en créativité, t'as besoin de respirer. On s'est dit, vas-y, album, en fait, on a envie de partir sur des rencontres aussi, de travailler en studio avec des gens qui vont amener d'autres choses, enfin, tu vois.
Et à chaque fois, le choix sur, enfin, les choix artistiques, ils sont faits en concertation à trois, ou il y a une personne qui peut avoir plus de... Non, parce que moi, cette dynamique de groupe, elle m'intéresse,
ouais,
tu vois,
ouais,
savoir un peu s'il y en a un qui peut avoir une idée, et puis les autres sont pas complètement...
Il y a des veto, parfois.
Ouais. Ouais, bah ouais, parfois il y a des veto, mais c'est jamais très grave, hein. Tu vois. Puis surtout, en fait, on a envie de se laisser la liberté, je pense. Tu vois. Donc, c'est vrai que naturellement, il y a des leads qui l'emportent sur certains segments, sur certaines idées, sur certains tracks. Swing, évidemment, il met beaucoup de choses en place, étant le chanteur qu'il est.
Ouais.
Tu vois, la facilité au refrain. C'est vrai que commencer par un refrain, tu vois, c'est chouette, hein. Tu vois, simplement. Donc, On apporte tous des trucs. Je pense qu'effectivement, Swing, en tout cas sur Avant la nuit, il y a une importance, mais ça s'entend. Hein, je pense quand t'écoutes l'album, il est très souvent au refrain, ce qui est quand même très souvent le cœur du track. Hein, tu vois. Donc,
ouais.
Mais on s'écoute. Hein, en vrai, on a rarement des envies vraiment contradictoires. Tu vois.
Oui. C'est
et puis il y a vraiment des combats qui valent pas la peine. Hein, tu vois. Quand tu dois faire un album, tu vois, genre. Soit et puis on se laisse des coins de liberté. Moi, je crois qu'il y a un morceau sur lequel je suis pas sur Avant la nuit. Je crois que c'est arrivé aussi à l'un ou l'autre de pas être sur tel ou tel track, tu vois.
Oui,
ça peut respirer un album, on est trois voix, tu vois, c'est détente.
Ouais. faire des morceaux solo. Ou...
Voilà.
Ouais. Ouais, c'est intéressant de voir la place qu'on laisse, parce que en plus, enfin, chaque artiste évolue différemment. Et donc il y a des gens qui peuvent aussi arriver à un truc de se dire bah en fait ce qui a fait notre couleur au début, moi je l'aime plus trop. Mmh. Nous on fait autre chose ou voilà, donc surtout dans ce moment où le rap vraiment change de forme,
s'ouvre, tu ouais, veux dire, il ouais. peut prendre plein de formes différentes.
Ouais, ouais, complètement,
c'est vrai,
ouais.
C'est vrai. Il y a des beatmakers belges à succès.
Il y en a beaucoup, hein.
Ouais. Le motif, il me semble qu'il est belge, par exemple. Il travaille beaucoup en France, mais...
Je crois qu'il est belge d'origine, t'as raison.
Ouais. Hein.
Effectivement. J'ai jamais bossé avec lui. En tout cas, en Belgique, il y a quand même pas mal de gens qui ont placé beaucoup en France, beaucoup aux États-Unis, mais depuis longtemps, hein. Tu vois, en Belgique, depuis les années 2000, hein.
T'auras quelques noms, hein, éventuellement.
Il y a Street Fabulous, qui sont quand même très influents. Et je sais pas exactement comment ils s'organisent, mais ils ont produit beaucoup de choses dans le rap français et probablement dans le rap américain depuis les années 2000. Mais oui, il y a beaucoup de producteurs en Belgique qui placent, notamment en Belgique. Les noms me reviennent pas, mais il y a du monde.
Ouais, très bien.
Y a du monde.
Okay.
On s'apprend.
J'aimerais, les gars, pour bifurquer un peu sur la deuxième partie, ton autre vie professionnelle, entre guillemets.
Oui.
On a beaucoup évoqué donc la scène belge dans laquelle vous vous intégrez. Mais il y a quand même une grande différence, mine de rien, c'est que Damso, Hamza, on parlait de Caballero et Jean-Jean, etc. C'est pas exactement le même succès que celui que vous connaissez quand même. Il est plus important de leur côté. Est-ce que de votre côté, ça crée aussi une réflexion sur l'avenir du groupe? Est-ce que vous vous dites, on n'a pas exactement ce qu'on mérite? Est-ce que ça participe au fait que, par exemple, toi, en parallèle, tu fais d'autres choses aussi, mine de rien, qui sont pas liées à la musique directement, ou en tout cas pas faire de la musique? C'est un truc que vous en avez discuté, vous en avez conscience. Comment vous avez vécu tout ça?
Mais on est très à l'aise avec ce que t'évoques, parce que je pense que c'est pas que ça la réalité. Ouais. Mais c'est vrai que on n'a pas eu le même succès que Damso, que Hamza. Enfin, ça c'est clair et net. Ouais. Mais comme je te dis, on a toujours été dans une démarche assez premier degré, assez simple. C'est-à-dire qu'en fait, on fait et on reçoit. Tu vois. Et puis. C'est tout, enfin.
Ça crée pas de frustration.
Y a pas de calcul.
Bah non, enfin, tu vois, genre, en fait, et je crois qu'on comprend aussi très bien, enfin, moi, je comprends très bien pourquoi est-ce que la musique de Damso ou Hamza marche beaucoup mieux que la nôtre.
Ouais.
Enfin, j'ai aucun souci avec ça. On parlait de meilleur, pas meilleur et tout. Moi, je comprends très bien. Moi, j'adore leur musique. Mm-hmm. Je m'écoute pas. Donc, tu vois. Non, mais, okay. Je comprends très bien, genre, tu vois. En fait, non, mais après, moi, j'adore ce qu'on a fait avec l'Ordre du Commun. Enfin, tu vois, je pense qu'on a fait des putains d'albums, on a une très belle œuvre et tout. Je m'écoute pas aussi parce que c'est nous. Enfin, je connais nos tracks, tu vois. Mais non, j'estime beaucoup ce qu'on a fait, mais ça me fait pas, je regrette pas du tout qu'on ait pas eu plus de succès. On a déjà eu la chance, et puis on a encore la chance d'en vivre, en fait, hein. De toute façon, en fait, on parle beaucoup au passé parce que on est revenu un peu sur, on a refait le storytelling, mais c'est encore une histoire qui s'écrit au présent de ouf. On a encore beaucoup tourné cet été, et moi, en fait, ça a pas du tout orienté mes choix. Moi, j'ai toujours su que je voulais faire autre chose que de la musique, et en fait, et en l'occurrence des films, quoi, tu vois, donc du docu, beaucoup pour le moment. Ça, c'est un truc qui m'a un peu tombé dessus. Je pense que mon idée à la base, c'était plutôt de faire de la fiction. Je pense que ça va arriver, tu vois. Mais j'adore ce que je fais, moi, pour le moment. Donc, je pense que tout le monde est à sa place. Swing bosse sur son solo. Je pense que c'est un truc qui devait nécessairement arriver.
Ouais.
Dès qu'il a sorti le premier solo, moi, je le sais, tu sais, c'est un de mes meilleurs potes. On fait de la musique ensemble depuis des années. Moi, je sais très bien que un talent comme ça, il faut pouvoir l'exploiter en solo. Celui de Primero, je pense la même chose. Tu vois, c'est des mecs, je leur souhaite évidemment d'avoir des carrières complètes là-dedans. Et puis, je te dis, je pense qu'en Belgique, en tout cas autour de notre milieu, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vis les choses, avec quand même bienveillance. Je suis très content pour Kaba et Gigi. Je suis. Et puis, tu sais, nous aussi, on a vu d'autres gens pour qui ça s'est moins bien passé. Ouais. Tu vois, qui faisaient partie de notre génération. Donc, en fait, moi, je t'avoue que de notre point de vue, on fait partie du bon lot. Tu vois, du.
Ouais. Mais je pense que t'as raison.
Tu vois, clairement. Enfin, genre. Non, et puis, non, c'est une vraie chance. Franchement, toutes les expériences qu'on vit, qu'on a vécues, le fait de vivre de ce qu'on fait, d'un truc qui te fascine, qui te passionne, que tu. Et puis on a écrit une histoire humaine, en fait, aussi, vraiment, entre frères, quoi, entre on est tous des très vieux amis dans notre bande, tu vois. On a monté notre label ensemble, notre label qui aujourd'hui produit des artistes qui ont 20 ans. On a construit plein de choses, on a donné du travail à des gens, on s'est donné du travail à nous-mêmes, et franchement, c'est une histoire réussie pour moi, tu vois. Genre,
et vous êtes même pas en embrouille entre vous, donc ça, c'est bien.
Et il n'y a pas d'embrouille entre nous. Non, non, et puis, non, il y a de la, non, franchement, ouais. Non, je suis content, moi, les gars, de ça.
Mais t'as raison, il y a de quoi se réjouir.
Ouais.
Déjà, arriver à vivre de sa musique, c'est déjà un truc exceptionnel.
C'est déjà beau, c'est vrai.
Bah, bien sûr.
Ouais. Mais tu sais, c'est un truc, quand t'es dedans, t'as très, très vite tendance à l'oublier. Hein.
Ouais.
Mais enfin, quoi qu'on fasse, on a tendance à oublier notre chance.
Ouais, et il y a plein de gens
qui sont pas d'accord avec ce terme. Qu'est-ce que la chance? Je pense qu'effectivement, il y a toujours beaucoup de travail. On a beaucoup bossé.
Non, et puis il y a être là au bon moment avec le.
Et je pense qu'il y a ça.
Bon truc aussi. Enfin,
tu vois, genre, on sait tous dans quel voilà. Si
t'as un rapport. Quel rapport t'as à l'industrie? Parce qu'on parle de musique, d'artiste, etc. Mais c'est aussi des gens pour les financer, c'est des ventes, c'est des entourages, etc. C'est parfois des affaires compliquées aussi. Ça s'est globalement bien passé pour vous? Ça se passe toujours bien pour vous? Est-ce que est-ce que c'est un monde que t'aimes pas tant que ça finalement?
C'est un monde que j'aime pas tant que ça, mais c'est vrai qu'on a eu des bonnes rencontres. On a trouvé des bons collaborateurs dans le monde de l'industrie du disque, disons, et qui ont été pièces là sur nos deux albums. Aujourd'hui, mes copains, le label et tout re-signent là ou ailleurs, mais je pense que ça se passe relativement bien. Bon, c'est sûr que c'est un monde, tu croises des gens étranges.
Non mais c'est-à-dire pourquoi? Qu'est-ce qui est?
Bah parce que mais bon, Paris c'est un drôle d'endroit aussi hein, parfois. Non mais c'est vrai les gars. Vous y vivez, j'espère vous réalisez. Mais...
Parce que pour toi l'industrie tu l'associes à Paris?
Ouais. Ouais. Bah il y a quand même un truc
même en tant que Belge, même en tant que Bruxellois.
Oui. Si tu signes chez Sony Belgique, c'est pas bien ce que je dis, mais si tu signes chez Sony Belgique, chez Sony Universal Belgique, c'est que tu chantes en français, c'est que t'as pas signé le meilleur deal. Ouais. Non mais c'est vrai. Enfin moi je pense que si t'as pas signé en France, c'est parce que t'as pas signé le bon deal. Enfin tu vois. Ouais. C'est ici qu'il y a plus d'argent. Les maisons disques chez nous, c'est des plus petites boîtes. Enfin, c'est une heure de train.
C'est un objectif même en tant qu'artiste belge de signer sur le territoire français spécifiquement.
Bah moi si t'es artiste francophone à Bruxelles, je te conseille d'essayer de signer en France. Enfin,
c'est marrant parce que nous de France, on se dit ouais, maisons de disques en France, c'est pareil, ils ont pas d'oseille.
Ah ouais.
Des cracos.
Ils en ont plus quand même, je pense.
Ah ouais, donc vraiment en Belgique.
Après ça se trouve, j'ai
c'est réservé quoi.
Bah oui, bah c'est un plus petit pays. On est une petite communauté francophone. On est 5 millions de francophones en Belgique.
Ouais.
Tu vois. Donc oui,
d'accord.
C'est plus de 10 fois moins que la France, quoi.
C'est marrant, tu vois, t'es toujours l'eldorado de quelqu'un d'autre en fait. Hein.
Bah ouais, mais bien
et
sûr.
Nous on se rend pas compte de ça. Ouais,
en termes de marché,
sur ce que je disais.
Ouais, ouais.
C'est quand même, notamment dans le rap, en termes de marché, la France c'est quelque chose quand même.
Ouais, mais t'as toujours l'impression que c'est un peu mesquin, tu vois, en termes de sous et tout. T'as toujours l'impression que.
Est-ce que tu penses que c'est mieux aux États-Unis qu'ils alignent la thune facile?
Bah ouais.
T'es certain, mec?
Ah, je pense que...
Je connais pas assez, mais...
Moi, je vois les clips dans les strip clubs, les mecs, ils ont des billets, tu vois. Faut bien qu'ils sortent de quelque part. Ils arrivent avec des cartons de billets, ils balancent tout le temps, et tout ça, tu fais pas en France. Tu vois? Non, mais c'est marrant, parce que, de voir que, la Belgique regarde la France comme ça, alors que...
L'objectif, ouais,
moi,
je suis pas
en tout
étonné.
Cas, je vois les...
Mais, mais pas que comme ça, parce que aussi, tu sais, on est vite fatigué, quoi, de... Enfin, en tout cas, moi, c'est ça, des expériences. Des rencontres que tu fais en maison 10, tu vois très vite les tempéraments des gens. Et ce côté, j'ai pas envie de le décrire, je crois que j'ai trop la flemme.
Mais oui, mais le décrit pas,
tout le monde voit.
Mais en gros, c'est quoi? C'est parce qu'il y a c'est le financier qui décide de tout.
C'est le côté produit.
Casse les couilles,
c'est produit, marketing.
En fait, surtout ce qui me fascine, moi, c'est les faux passionnés dans les maisons de disques. Tu vois, c'est les mecs qui disent moi la musique on va t'emmener, ton projet je l'adore. Toi et moi, on va faire du pognon.
C'est genre, ça vraiment, c'est aussi caricatural.
Oui, enfin parfois oui, ça parle comme ça, oui. Enfin genre oui. Tu sens quand c'est faux, quoi, en fait, chez les gens. Quand
c'est souvent faux dans les maisons de disques, on va pas se mentir.
Mais en fait, de toute façon, voilà, c'est des mecs qui doivent...
Il y a pas de place pour l'inattendu, la spontanéité.
Non, mais c'est pas aussi caricatural de ça. Non, les maisons de disques, c'est plein d'humains qui aiment la musique, c'est vrai aussi.
Non, mais il y a plein de bons professionnels.
Mais ce que je veux dire, c'est que, en maison de disques, t'as des chefs de projet qui s'occupent de toi. Je veux dire, t'es un produit, tu vois, donc... Un produit, faut qu'il marche. Enfin, il y a pas de mystère.
En fait, c'est ça, je pense. Ouais.
Oui, mais je crois que c'est juste qu'il y a certaines personnes qui arrivent mieux à faire vivre cette limite que d'autres. Mmh. Il y a des gens qui sont des gens qui ont un sens de l'ambition, qui parfois manquent d'humilité, manquent de sens de la réalité et qui aiment réussir. Il y a des gens, et dans des villes comme Paris, qui sont des sortes de métropoles comme ça, où il y a énormément de concurrence dans la vie de tous les jours, hein, mec, que tu sois boucher ou artiste, hein. Enfin, tu vois, genre,
juste prendre le métro, c'est la concurrence. Ouais, c'est chaud pour rentrer dans le métro.
Moi, c'est le fil que j'ai quand je suis à Paris. Moi, je pense que les gens, ça le sentent quand même, que c'est
non.
Je pense
que... Non!
Un peu?
Vivre à Bruxelles, non, alors ça doit être incroyable.
On peut pas dire que Paris c'est une ville à la cool. Ça, c'est vrai, c'est pas à la cool.
Qu'est-ce que le cool?
Il dit ça, il dit ça juste
Paris, l'intro d'Île-de-France pour dire ça.
Tu le sais très bien.
Pas de recul, le mec.
Et donc, je crois que c'est juste que voilà. Et puis, il y a des gens qui arrivent très bien à gérer ça. C'est pas du tout la réalité de toute la réalité des maisons disques. Il y a plein de gens qui sont des vrais passionnés et tout, et heureusement. Et c'est sûr que tu trouves ça un peu...
Non, mais j'imagine qu'est-ce qu'il faut, rappeler que la musique ne se résume pas à une industrie, mais par contre, la musique, dès qu'elle est commercialisée, etc., ça devient une industrie.
Bah, évidemment.
Une industrie, le but, c'est générer de l'argent. Ensuite, t'as plein de gens qui s'accommodent et qui trouvent un équilibre différent entre l'accompagnement artistique, une vraie volonté de faire de belles choses, et puis des gens qui où l'argent prend un peu trop le dessus.
Bon, des compromis,
des équilibres différents, etc. Mais personne n'est dupe. L'industrie musicale, elle est là pour rentrer dans ses frais, voire en générer, faire de l'argent le plus possible.
Oui, pas de la philanthropie.
Bah non,
c'est pas le
but.
Mais surtout que
après, ça permet de payer des gens derrière qui travaillent. C'est cool, tu vois.
Mais bien sûr. Mais tu sais, en fait, moi je dis ça, mais c'est aussi pas que j'ai l'air de l'artiste marxiste qui pense que tu vois, nous on est des entrepreneurs dans la musique, donc on sait très bien ce que ça coûte un clip, ce que ça coûte d'employer des gens. Enfin, tu vois, ce que je veux juste dire, c'est ça, c'est cette intention de. En fait, c'est surtout ce qu'on peut faire miroiter au travers d'un contrat qui peut être dangereux. C'est surtout ça que je veux dire. C'est surtout ça. C'est quand tu fais des rencontres et que des gens te font croire qu'ils aiment ta musique et que tu sens qu'en fait, derrière le contrat, en fait, tu le relis deux fois et t'es en mode, mais tu t'as même pas envie de répondre. Enfin, tu vois. Ça, je pense que tous les artistes qui ont eu des contacts avec des maisons de disques, à un moment ou l'autre, croient ce genre de personnes. Ouais. Tu vois.
Mais d'un autre côté, c'est ça qui est marrant, c'est que la puissance d'une maison de disques qui était, absolument, inattaquable dans les années 90, début des années 2000, où il fallait
avant la crise du disque, avant
il fallait en fait passer par là juste pour qu'on puisse t'écouter, alors qu'aujourd'hui avec internet etc, t'as moyen en fait de proposer ton produit.
Oui,
bien sûr,
c'est vrai que c'est différent. Après, c'est
avant, ils étaient incontournables, tu vois. Bah, t'étais obligé de passer par là.
Le contrat d'artiste était la norme pendant longtemps. T'avais besoin en fait de moyens, de simplement de production pour pouvoir sortir ton album. Aujourd'hui, c'est plus le cas, effectivement. Par contre, ça, c'est un truc que je tiens vraiment à le dire, on l'a fait plusieurs fois dans cette émission déjà, etc. C'est à tous les gens qui se lancent, etc. En général, on a besoin d'être accompagné, d'avoir des professionnels qui nous aident. Ouais. Mais c'est vrai, c'est important. On peut pas tout faire tout seul. Le modèle indé, il faut tendre vers ça. C'est intéressant parce qu'en plus, bah, tu récupères plus d'argent sur ta production à toi, tu vois. Et c'est important. Ouais. T'en es plus maître de ton œuvre, etc.
Mais tout le monde ne peut pas être indé, hein, bien sûr.
D'une part. Et puis surtout, il y a plein de trucs qu'il faut déléguer parce que, mec, tu peux pas tout faire.
Encore que, je me dis.
Il y a des cas rares, mais c'est. Ouais. En tout cas, il faut avoir parfois l'humilité de se dire, bah, oui, j'ai besoin d'autres personnes. Et puis c'est bien de les payer si c'est des professionnels.
Oui, bien sûr. Ouais.
Il faut raisonner, faut être raisonnable avec ça. Certainement. On peut faire des choses par soi-même et pas tout, c'est sûr.
Tout à fait. Et un dernier point, bon désolé, je parle, non, là, mais c'est des débats intéressants. C'est tu parlais d'avoir une vision marxiste ou quoi que ce soit ou très de gauche. Ce qu'on peut reprocher, c'est on peut pas reprocher à l'industrie d'être une industrie entre guillemets. Par contre, on peut dire que la place de la musique commerciale est peut-être trop, elle prend trop le dessus sur tout le reste, toutes les autres propositions musicales qui peuvent être possibles, qui créent plus de liens sociaux, plus local, plus de la musique, je sais pas, traditionnelle, régionale, folklorique, plein de choses, etc., qui sont possibles. Une autre approche de la musique, et que elle est complètement balayée par la musique, qui est là aussi pour générer de l'argent. Ça, on peut faire cette critique éventuellement, par exemple.
Donc, il faudrait quoi, en fait, de la musique locale, mais marketée?
Non, pas forcément. Après, là, c'est plutôt les pouvoirs publics, par exemple, qui
ils en font beaucoup, hein.
Mais peut-être pas assez.
La loi Toubon.
Mais je parlais en termes d'enseignement de pédagogie autour de la musique. Plein de choses comme ça. Bref, c'est un autre débat. Parlons de tes autres activités. Et pour lancer le truc, pour lancer cette deuxième partie, interrogation qui me paraît comme assez évidente, c'est tu parlais de Swing et Primero qui sortent leurs albums solo. C'est pas ton cas. Parce que t'as envie de te concentrer sur d'autres trucs, t'as pas envie de faire de musique.
En fait, j'ai toujours su que je ferais pas de solo, moi.
C'est vrai.
Oui.
Depuis le départ, t'étais.
J'ai toujours.
Pourquoi?
Parce que je t'ai dit, j'ai toujours voulu faire autre chose, en fait. Donc moi.
T'étais un peu le sidekick. C'est.
Non, j'étais à fond, frérot. J'étais à fond. Et puis même, je suis à fond dans l'ODC. En fait, non, j'ai toujours été. Non, j'ai jamais fait ça sur le tech. Et vous, non. Pas du tout, mais je crois que juste la musique en solo, c'est un truc où
toi tu te voyais pas en frontman.
En fait, je crois que surtout j'avais envie de faire autre chose. Ouais. Et de temps en temps, ça me démange, j'ai envie. Mais en fait, je sais ce que c'est une carrière musicale aujourd'hui. Enfin, tu vois.
Pourquoi t'as la flemme? Quelle espèce précisément? Tu te dis non, j'ai pas envie de le faire.
Tout, frérot. Je réfléchis, mais je crois tout en fait. Franchement, j'adore être sur scène. Tu vois, j'adore les ambiances de studio, j'adore il y a plein de choses que j'adore dans la musique. Mais déjà, je viens de passer 10 ans dedans, tu vois. Et je suis toujours dedans et je fais autre chose. Et j'ai pas envie de reprendre un nouveau point de départ aujourd'hui dans une carrière en solo où en plus franchement, j'ai rien à dire. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? C'est un vrai truc et tout le monde oublie ça, je pense, tu vois, mais genre j'ai rien à dire. Et je pense que c'est un truc important. Il y a des moments où ou même dans des dynamiques, et je suis sûr que personne n'en parle de ça, parce que en fait ça intéresse personne, mais je suis sûr que certains morceaux de temps en temps sont écrits sans que les gens n'aient rien à dire, sont écrits parce qu'il faut qu'un morceau existe parfois.
Tu penses vraiment qu'il faut que les gens aient quelque chose à dire?
C'est mieux quand même.
Non mais au sens, alors, parce que on est, Tu vois, au sens revendication.
Non, je sais pas.
Mais alors, je crois que c'est déjà le sentiment d'avoir un truc à dire qui est utile. Ça peut être un truc très intime. Parfois, un truc très intime peut être très utile, mais il faut sentir que ça l'est. Et puis c'est ça aussi ce dont on parlait, je pense, tout à l'heure. On est dans un monde quand même qui est surchargé d'informations. Oui. On est tout le temps en train d'écouter des gens qu'on n'est pas sûr d'avoir envie d'écouter, et qu'on soit.
T'as pas envie de rajouter du bruit au bruit, quoi.
Et en fait, je crois que c'est juste que j'ai l'impression, en fait, simplement qu'il y a plein de gens qui ont pas de place. Tu vois ce que je veux dire?
J'ai envie
de continuer à m'exprimer, mais autrement.
Ouais.
Et je pense que le film, pour ça, c'est cool, tu vois. Genre, je suis dans un truc, j'ai l'impression que juste qu'aujourd'hui, en fait, ça ressemble plus aux choses que j'essaye de faire. C'est-à-dire un truc avec peut-être un peu plus de recul, et qui montre des choses différemment.
Ouais.
Et je peux quand même mettre beaucoup d'intuition, même dans le documentaire, j'ai l'impression de créer, enfin vraiment, tu vois.
Donc, tu penses juste que la musique, c'est pas le bon médium pour toi pour véhiculer les idées que t'as envie de faire passer, quoi.
Là, en tout cas.
Pour l'instant, après, ça peut changer.
Là, je suis plus dans un truc où, je trouve, ça me ressemble plus. Et moi, en termes d'expression, je pense beaucoup en mots, en fait, pas beaucoup en musique, justement.
Ouais.
Je trouve que le cinéma ressemble plus aux mots que la musique. Je pense, tu vois. En tout cas, il y a quelque chose qui est plus ça ressemble plus à mon cerveau, je crois. Je peux pas expliquer, frérot, tu vois, okay.
En tout cas,
je trouve que ça me ressemble, et j'aime bien faire ça, et ça c'est important, juste, tu vois.
Genre. Et ce que fondamentalement, ce qu'il y a pas derrière, c'est tu parlais de cette idée de on avait commencé avec le collectif, tu vois.
Ouais, ouais.
Et j'ai l'impression que c'est pas tant que t'as rien à dire, mais en tout cas t'as pas envie de dire des trucs seul, ou en tout cas t'as envie de donner la parole à d'autres, de réagir de ton angle éventuellement, etc. Parce qu'un documentaire, c'est ça aussi.
Oui et non, parce que ce qui est marrant, c'est que moi je prends la parole seul sans trop hésiter. Enfin, en tout cas, je l'ai beaucoup fait.
Ouais.
Peut-être que je le fais moins maintenant. T'as peut-être raison. je sais pas. Écoute.
C'est bien, c'est peut-être la sagesse, hein, comme l'ego centré.
Ah non, mais ça c'est sûr. Ah mais en fait, non, mais je crois qu'il y a ce truc où c'est vrai que j'ai plus. Je me suis compris. Je crois qu'il y a vraiment ce truc. J'ai l'impression d'être arrivé quelque part.
Ouais.
Je me suis compris. Je crois que par la musique aussi, c'est un exercice. En tout cas, dans la façon dont on le faisait, de nouveau, c'est ça. Je parle pas de la musique, je parle de notre musique, de la musique que je fais.
Ou c'était une musique de transition.
Beaucoup dans l'écriture, un truc où tu te confrontes, où tu cherches. Enfin, tu vois. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai moins ce besoin-là. J'ai plus envie de rencontrer. J'ai plus envie de découvrir. J'ai plus envie de montrer. J'ai de ressentir des choses. Je suis quelqu'un de très émotif au cinéma. Enfin, tu vois. Donc, et ça, c'est un truc qui me guide aussi dans mon envie de faire du cinéma. Est-ce que j'ai aujourd'hui envie de parler du monde en jeu? Pas exactement. Ouais. Tu vois, et je crois que c'est surtout ça le truc. Est-ce que j'ai envie d'écrire du rap en heel? Non plus. Tu vois, donc en fait, je fais juste un truc que je sentais que j'avais envie de faire depuis longtemps, quoi, tu vois.
Ouais, c'est bien, ouais. C'est bien dit, hein.
C'est bien dit, ouais.
Ouais, très bien. Okay. Tu devrais faire un morceau là-dessus.
Tu vois que t'as des choses à dire. Il y a une expérience que je trouve intéressante. J'avoue que je l'ai pas regardé, le docu, hein. Mais ce docu que tu as, où tu as suivi Damso, donc à Kinshasa.
On en a parlé dans le Uber pour venir avec le chauffeur, qui était très intéressant aussi.
Tu veux bien nous parler un peu de cette expérience, de d'où ça vient, pourquoi? Est-ce que justement, pour toi, c'est une manière de raconter une histoire, justement, d'avoir suivi Damso? Parce qu'en plus, c'est un truc qui a du sens pour lui, j'imagine, parce que c'est ses racines.
Bah écoute, c'est un projet qui nous a un peu tombé dessus comme ça, tu vois, parce que ça a été décidé à la dernière minute, en plein Covid, déjà par Damso et par Tarmac, hein, parce que c'était aussi produit par la RTBF.
D'accord. C'est pour ça que t'as été plugué au truc, c'est
pas vraiment. Non, parce que moi, je travaille pas, je suis pas employé à la RTBF, hein, tu vois, du tout. Donc c'est à chaque fois des contrats, mais bon, c'est avec des productions et tout. Donc oui, quelque part, oui. Disons oui. Et du coup, en fait, ça s'est improvisé. Moi, jusqu'au moment où j'avais les pieds dans l'avion, je disais. On sait pas si on va partir. Puis on a eu les pieds dans l'avion à un moment. Et c'était incroyable parce que bon, moi j'avais jamais été en Afrique subsaharienne. Je connaissais pas le Congo. Et je connais toujours pas vraiment le Congo. Enfin, en vrai, on a passé une semaine à Kinshasa dans les pas de Damso. Avoir finalement assez peu de choses. C'est une ville gigantesque. Mais en tout cas, ça a été avec Adrien qui est là derrière. Ça a été un voyage incroyable et puis une expérience de tournage géniale, quoi. Tu vois, parce que son ambition à Damso, je pense que c'était effectivement sa démarche première, c'était de partir à Kinshasa pour sortir son quatrième album et d'être là-bas pendant la sortie, ce qui est purement symbolique parce qu'en réalité, il y a pas d'enjeu vraiment médiatique, il y a pas d'événement, il y a pas de enfin tu vois. Si en l'occurrence, il a fait un événement, mais c'est un assez petit événement, mais c'est plutôt une démarche vraiment symbolique et puis ils se sont dit on va faire un film et donc l'idée ça a été de faire un genre de double portrait entre Damso et Kinshasa. Et puis je pense que c'est un genre de fan film un peu documentaire où tu vois on parle vraiment de Damso d'un point de vue un petit peu intime de sur ce point de vue-là, quoi, sur la question des racines.
Puis pour un Belge, que ce soit Damso ou toi, c'est quelque chose aussi d'aller au Congo. Il y a une histoire quand même.
Bien sûr, ouais. Bah écoute,
la colonisation.
Bien sûr, ouais. Ben, ce film en vrai évoque ça. Alors ouais. c'est pas un film historique, c'est pas un film politique non plus, mais on évoque ça. Enfin, tu vois,
c'est une réalité.
C'est une réalité, et je pense que dans la démarche d'un mec de la diaspora qui revient dans son pays, qui a cartonné en Europe, enfin, genre, évidemment que ça fait partie de cette histoire aussi, quoi, tu vois, enfin de son histoire à lui. Donc je pense que pour lui il y a cette démarche, évidemment. Il y a, et d'ailleurs il explique, hein, dans le documentaire, dans les interviews qu'il nous a donné, dans les voix off qu'il nous a donné, il parle de ça, de cette envie de dire j'ai envie de faire comprendre qu'en tout cas moi, avec la lumière que j'ai aussi envie de un peu faire briller cette ville, quoi, tu vois, si je peux. C'est plus ou moins comme ça qu'il le dit. Et puis c'était une semaine très simple, et puis très bon, pleine de surprises, évidemment, parce que c'était pas si bien organisé. Plein de rebondissements, plein d'histoires folles et tout. Mais expérience incroyable, ouais, vraiment, expérience incroyable.
Adrien est valide.
Oui, non, il est valide.
Qui est chef opérateur, du coup, hein, qui est ici avec nous.
Et le taxi, qu'est-ce qu'il en pensait, Daz, alors, tout ça?
Non, mais c'était marrant. On est rentré dans le Uber, et Robin, il entend, il y avait de la musique, tu sais, dans les Uber, ils écoutent la radio, les mecs, quoi. Et Robin direct, il embraye et fait, mais c'est quel DJ, ça? Il fait que des dédicaces depuis 10 minutes, non? Et après, il commence à parler. Et donc, le chauffeur nous dit qu'il vient de, il était de Kinshasa aussi.
De Kinshasa, ouais.
Et donc, après, ça discute, et j'étais là, je fais, waouh, tu vois, vraiment, et j'ai dit, moi aussi, j'ai dit, mais en fait, c'est normal que vous soyez aussi sensible à ça. Mm-hmm. Parce que c'est vrai que, la Belgique a colonisé le Congo. Mm-hmm. Et après, moi, je me suis dit, attends, la France, elle a colonisé le reste de l'Afrique. Moi, je me retrouve dans un taxi avec un Camerounais, avec un Sénégalais ou avec un Ivoirien. Je pense pas que j'aurais autant de trucs à dire, tu vois. Donc,
c'est monstrueux ce qu'a fait la Belgique au Congo.
Oui, bah, bien sûr. Mais enfin,
et la France.
Toutes les puissances.
Vous avez la palme, hein, quand même.
Mais bien sûr. Les puissances coloniales, c'était affreux. Mais ce que je veux dire, c'est que, ce qui est marrant, c'est que ça semblait totalement, tu sais, fluide.
Ouais.
Genre, tu vois, il commence à écouter la musique, ah bah ouais, et puis ça balance des noms d'artistes, etc. Et moi j'étais là, je fais putain, moi je suis français, je connais zéro artiste d'Afrique de l'Ouest, tu vois.
Bon, je me dis,
ça sera pas aussi spontané.
Mais sinon, sur la question de, en tout cas nous, elle est là-bas pour raconter une histoire qui se passe au Congo, c'est sûr que moi, en tant que créateur, ça me posait la question, la légitimité, évidemment. Tu vois, mais ça, en fait, c'est un sujet dont on a parlé directement avec Damso à la première rencontre. On s'est dit, je lui ai dit, écoute, moi, je suis pas congolais, je connais pas intimement l'histoire de ce pays, mais vas-y, on va faire au mieux, enfin, tu vois. Et puis ça s'est fait comme ça, donc je pense qu'on a fait l'optique, j'ai fait le film avec cette optique, quoi, en tout cas avec cette question, tu vois, de me dire, j'ai envie que ça fasse plaisir, possiblement du bien, tu vois, à des gens qui le verraient de Kinshasa, tu vois. J'avais envie que les gens de Kinshasa
se sentent
respectés, retrouvent, ouais, un truc, tu vois.
T'avais une pression aussi à te dire, bah, juste un truc tout bête, quoi. Je suis, j'ai pas cette culture là je suis blanc, est-ce que je suis à ma place, c'est ça dont je parle.
Ouais. mais en fait, le truc, c'est que je pense que là où
non, mais se dire, par exemple, est-ce que ça aurait pas été mieux de prendre un réal peut-être avec une ascendance aussi congolaise,
bien sûr,
pour
mieux
capter le,
tout à fait. Mais je te dis, ça faisait partie des questions. On en a parlé. Je pourrais pas dire exactement, finalement, pourquoi est-ce que ça s'est fait.
Ouais.
Je crois que aussi parce que j'avais peut-être l'honnêteté d'en parler. Je sais pas, que moi je sens que c'est un sujet,
c'est un sujet, ouais,
et d'ailleurs on en a parlé avec Damso, j'en ai parlé avec d'autres Congolais après, enfin, surtout dans le milieu de la musique, il y a plein de gens qui sont issus de la diaspora congolaise, donc j'ai pu en parler beaucoup, quoi, tu vois, mais c'est une question intéressante. Je me rappelle même, finalement, il y a qu'une personne qui a essayé de m'estropier sur les réseaux, tu vois, là-dessus, et qui est, en plus, marrant, un blanc qui produit des films au Congo, et qui était un peu en mode, mais parce que je pense que c'est un mec qui le fait aussi vraiment,
oui, il y a une démarche.
Il y a une démarche, je pense que c'est un mec qui fait les choses bien, en fait, tu vois. Et qui était en mode, putain, mais pourquoi vous envoyez un reporter blanc, en fait, tu vois. Déjà, je suis pas reporter, déjà. Je suis réalisateur. Et puis, en plus, je lui ai dit, je comprends tout à fait la question que vous posez. Je comprends tout à fait.
Complètement.
Je lui ai juste dit, on l'a fait comme ça, parce que j'avoue que ça s'est fait comme ça. Regardez le film et voilà. Vous ferez un avis. En tout cas, moi, c'est vrai que quand je lis les commentaires sur YouTube, après, c'est toujours les commentaires sur YouTube, on sait jamais ce que ça vaut, mais il y a quand même beaucoup de gens qui ont l'air contents
de.
Et ça, franchement, c'est pour moi, c'était une victoire, quoi. Franchement. Ouais. Je pense qu'on on a fait ça. D'une façon en fait, bien respectueuse.
C'est des questionnements même qui seraient peut-être pas posés il y a quelques années en arrière, mais maintenant, t'es obligé, tu vois, de te dire, mais est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je prends pas la place de quelqu'un d'autre? Est-ce que, tu vois? Et je trouve ça plutôt sain de s'interroger là-dessus, quoi.
Moi, je dis ce que je pense de mon film. Je devrais pas faire ça. Non, on fait pas ça.
Non, ça mais parce qu'on est, dans DLT. Si, on aime bien avoir de la vie des gens, de l'introspection, etc. C'est toujours intéressant. Un petit retour. Il y a, donc, les docus, etc. Tu disais que t'aimerais faire de la fiction. Il y a aussi, alors ça, je trouve ça rigolo, le fait que t'animes des émissions. Donc, il y a le podcast Superpose. Ça parle même pas de musique, d'ailleurs.
Pas du tout. Enfin, un peu.
C'est, pour toi, il y a une espèce de continuité en tant qu'artiste, c'est un truc auquel qu'on peut être amené à faire, ou c'est complètement différent, ça n'a rien à voir. En vrai. C'est juste toi, c'est un de tes kiffs perso à côté, voilà.
Pour moi, c'est pareil.
Ah ouais. C'est quoi
Je fais pas vraiment le tri, je t'avoue. Je prends la parole publiquement, ça ressemble toujours un peu. Enfin, tu vois.
Ouais.
Parfois, entre prendre la parole en interview, sur scène ou animer un podcast, je vois pas vraiment la différence. Enfin, finalement, il y a un truc qui est commun, c'est que t'existes publiquement. Enfin, tu vois ce que je veux dire,
donc t'as peut-être plus de temps pour construire ta pensée quand c'est toi qui anime le truc.
Oui, ça c'est sûr, bien sûr.
Quand tu te fais attraper dans une interview ou on t'emmène sur un terrain que t'avais peut-être pas envie de couvrir, tu vois.
Et c'est un autre mode d'expression pour
toi. C'est un autre mode d'expression, mais en fait, je me ressemble en fait dans ce podcast. Donc, tu vois, ça me semble pas si, tu vois. C'est un chouette podcast, c'est une proposition que la RTBF m'a fait, enfin, tu vois, d'animer un podcast, d'aborder des sujets de société et tout. Moi, je le voyais, comme un truc qui est chouette. Enfin, c'est bien, je pense, de créer ce genre de rendez-vous. Tu vois, pour moi, c'est aussi, une opportunité de rencontrer plein de gens dans des domaines différents, et puis d'essayer de proposer un truc aux gens qui existent aussi pas encore vraiment en Belgique au moment où on le lance, donc l'année passée. Tu vois, il y a peu de podcasts en Belgique, Je sais qu'en France,
en France, il y en a trop même.
Ouais, bien sûr. Là, du podcast filmé, je crois que la RTBF, c'est le premier à le faire à ce moment-là, je pense. Il y en a deux, trois qui existent. Mais sur YouTube, en tout cas, première vraie chaîne, quoi, à produire du podcast filmé, je pense, avec le nôtre, tu vois.
Et du coup, c'est peut-être effectivement cette pluralité de moyens de t'exprimer qui font que tu ressens pas le besoin de le faire en musique, finalement.
Non, je crois que c'est vraiment différent.
Ouais?
Ouais, je crois que c'est vraiment différent.
C'est pas le même ressort, quand même.
C'est pas le même ressort.
C'est pas la même satisfaction, c'est pas la même chose.
Non, je crois que, mais après, c'est la question que tu peux te poser, genre, en vrai, mais bon, là, ça devient, là, on arrive sur des problèmes de riches et je déteste ça. Et tu sais ce que je vais encore plus détester, c'est m'écouter après. Parler de, ouais, mais tu vis ce que t'aimes, mais finalement, est-ce que, frérot. Vraiment.
Non, mais c'est, enfin, pour moi, c'est un vrai sujet qu'on peut aborder, le fait, effectivement, que, d'accepter que des gens se disent, finalement, j'ai plus grand chose à dire et
moi, il y a un truc, c'est vrai qu'en tout cas, je crois qu'aujourd'hui, je sais pas si ça manquerait, mais c'est vrai que le fait d'avoir un petit peu, vraiment, juste un petit peu de notoriété, d'avoir, tu sais, une émission à la RTBF, d'avoir ce que des gens chériraient beaucoup, une image publique, tu vois.
En fait, tu sens que t'es.
Je crois que fondamentalement, c'est pas du tout ce qui compte pour moi, quoi, tu vois. Ouais. Ce qui est chouette, c'est de pouvoir bosser, de pouvoir partager avec des gens, si on t'offre l'opportunité de prendre la parole, de dire un truc qui compte et tout. Mais, franchement, je me vois très bien vivre sans parole publique, quoi.
Ouais.
Ouais, facile. Ouais. Vraiment, je crois qu'en vrai, c'est plus trop un truc qui compte. Peut-être que je le regretterais justement. Enfin, tu vois. Mais genre, en vrai, non. Aujourd'hui, j'ai envie de m'exprimer autrement, tu vois.
Ouais, mais en fait, ça sera quand même une prise de parole.
Oui,
ça sera
bien sûr.
Une proposition artistique. Si tu fais de la fiction, etc.
Oui, bien sûr. Mais tu vois ce qu'on.
Tu vois oui, ce qu'on d'accord.
Dit. Tu seras plus au premier plan.
Voilà. Ouais, bien sûr. Bah, c'est un truc. C'est une constante en fait pour toi de finalement pas être tout le temps au premier plan.
Là maintenant ça l'est un peu devenu
je comprends, je suis plutôt d'accord
je pense
ça.
Que c'est même assez sain et naturel au bout d'un moment quand t'as été exposé. Bon, alors t'as pas connu non plus
non mais vraiment pas bien sûr
notamment les gens qui ont été très très exposés de prendre un peu de recul après voire se mettre en retrait.
Il y en a qui justement quand ils sont très exposés il y en a qui peuvent difficilement accepter le fait de ne plus l'être.
Oui, aussi, c'est vrai.
Tu vois, ou avoir un rapport justement à
quand c'est subi en tout cas.
Ouais. Tu peux avoir un rapport étrange en fait à ce truc-là et refuser de revenir à ta place normale qui est juste de pas être surexposé en tout cas. C'est des mécanismes psy qui sont très intéressants à observer et je pense qu'il n'y a pas deux artistes qui ont le même avis sur la question et je trouve ça plutôt sain de se dire à un moment donné j'étais dans la lumière
après,
ça me dérangerait
après,
pas
après il faut dire aussi que il avait une chance justement par rapport à ce que tu dis c'est de te dire moi je peux m'exprimer de manière différente parce que pour certains aussi c'est ça qui manque c'est pas seulement l'exposition c'est aussi dire j'avais mon médium et aujourd'hui je peux enfin en tout cas il y a plus d'opportunités de carrière d'auditeur je ne sais quoi etc qui me permettent de continuer à m'exprimer à travers ce médium en tout cas je peux le faire dans ma chambre mais c'est pas exactement la même chose et la chance qu'avait Robin j'imagine
c'est d'avoir conscience qu'ils pouvaient s'exprimer de manière différente à travers. Est-ce que il y a pas aussi, ça c'est une question que je me posais, tu disais que tes parents étaient artistes, t'as commencé par la peinture, etc. Est-ce que ce terreau, il était quand même pas ultra favorable à se dire, bah dans ma vie je peux faire des trucs différents, variés, je peux m'exprimer de plein de manières différentes, et que c'était quand même une grande chance d'avoir cette vision,
d'avoir du recul en fait.
Mes parents ils se sont rencontrés dans un jazz club dans les années 90, 90 pour vous, du coup. Mais mon père était dans la musique, ma mère était peintre. Et puis je sais pas, moi j'ai juste grandi là-dedans. Et ouais, juste avec des gens qui ont toujours voulu, enfin qui ont toujours essayé de faire ce qu'ils aimaient, quoi, tu vois. Donc j'explique juste ce que c'est, mais oui, tout le monde imagine bien, quoi. Enfin, tu vois, très paradoxalement, j'ai vécu des périodes dans ma vie où on était très à l'aise et d'autres où on n'était pas à l'aise du tout.
Financièrement, tu veux dire?
Ouais, financièrement, pas à l'aise du tout. Enfin, genre. Ouais, mais quand on était ado, je vivais avec mon père dans un lieu, dans un appart complètement insalubre. On avait du mal vraiment à finir les fins de mois, tu vois. Et il y avait un truc où ça faisait partie de l'aventure. Tu vois ce que je veux dire? Mon père était juste comme ça. Aujourd'hui, il a 67 ans. Il vit seul dans un petit appart, pas top non plus. Mais tous les jours, il est motivé par l'idée de créer, quoi. Enfin, tu vois, il continue à faire de la musique, il continue à écrire. Je trouve que c'est le meilleur truc, en fait. Tu vois, genre. Et donc, en fait, moi, j'ai toujours vu un peu quand je me suis lancé dans la musique. Pour moi, le rêve, c'était de gagner 1200 euros par mois. Donc, tu vois.
Des rêves accessibles. Hein.
Ouais. Ouais, mais parce que tu vois,
avec
pour moi,
la musique, c'est pas si évident.
Mais parce que c'est ça, parce qu'à l'époque, il y a 10 ans, je le rappelle. Bruxelles, avec 1200 euros, tu pouvais vivre.
Ouais.
Un peu moins maintenant. Mais on est quand même, quand même pas si loin. Ok. Bon, bref. Mais donc, avec 1200 euros, je me disais, vas-y, ça, ce serait le goal, le truc de fou, quoi, tu vois. Finalement, je gagne mieux ma vie aujourd'hui. Mais,
j'ai pas conscience que c'était une forme de chance d'avoir ce modèle et de se dire, je peux ensuite explorer différents trucs.
Bien sûr. Moi, en fait, surtout, en grandissant avec des parents artistes, tu grandis aussi avec plein d'adultes qui sont artistes, que tu vois aussi galérer.
Mais t'as une ouverture sur le monde, sur les gens.
Voilà,
sur...
et puis je trouve que super apprentissage. J'ai remercié ma mère il y a pas longtemps.
C'est vrai.
Ouais. Je lui ai juste envoyé un message pour lui dire
merci.
Merci.
Elle t'a rappelé, elle dit qu'est-ce qui t'arrive?
Un peu. Elle m'a dit, je te jure, elle m'a dit t'es stone ou quoi? Non, je lui ai dit peut-être. Mais merci.
Bon, alors ça réclame en régie que tu poses.
Un 16.
Mais je sais pas si t'as envie.
Je sais pas si j'ai envie non plus, moi.
T'es pas obligé.
J'en ai même pas un qui me vient en tête.
C'est vrai.
Je te jure, là, ça fait longtemps que j'ai pas posé. Mais en plus, j'ai pas une exclue à te sortir. C'est ça le truc.
Ouais, mais ça c'est pas grave.
Tu veux que je te pose un 16?
Tu poses ce que tu veux si t'as envie, t'es pas obligé.
Ah, moi je.
Daz, t'as envie, toi?
Ah, bah, qui pose un 16, ouais. Mais après, je comprends aussi.
Qu'est-ce qu'on a comme instru en plus?
La pression, ouais, non, mais ouais.
Tu veux une instru, mais tu veux pas à capella, tu veux une prod?
Bah si ouais, ce serait plus rigolo.
Mais un 16, ouais, vas-y, on voit un truc,
quoi,
ma mère.
Tu veux quoi?
De toute façon, si je te dis qu'on le coupe,
qu'est-ce
on le coupe.
Qu'est-ce que t'aimes bien? Hein. Bien sûr, on le met pas.
Mais moi, ce que tu veux, tu sais quoi?
Non, dis-moi.
Attends, mais je vais au moins chercher un texte.
Ah, bah, je sais pas du tout.
Oh là là.
Ah, tu veux une prod?
Ouais, un truc que t'aimes bien, sur lequel tu serais à l'aise, tu vois.
Un type beat.
En termes de BPM ou je sais pas.
Je suis mort, les gars.
Oh, le trap.
On va pas se mettre Chokwan.
À la base, j'étais venu faire un documentaire. Le mec, il se retrouve à poser des 16 à 22h30. Non, ça va, il est 21h.
Ça va,
non, il est 22h. Ah ouais, tu lui envoies Chokwan.
C'est rigolo.
Ah, Chokwan. T'en fais ça. Ah, mais là, frérot, je sais pas si je vais. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas écrit un moment de BPM. Vas-y,
je mets autre chose. Ou on fait pas du tout.
Non, mais
faut pas
ça me fait délirer. Mais c'est tellement un classique, ça me fait délirer. J'ai envie de le faire maintenant. À toi.
Ah. J'ai titillé ses sentiments.
Ah bah bien sûr, tu l'as attrapé par le boom bap.
Attends, il faut juste que je me rappelle le moins d'un texte, frérot.
T'as même le droit de le faire avec ton téléphone, tu as sous les yeux.
Comme les jeunes
rappeurs. Sur Rap Genius, quand tu as trouvé tes propres lyriques.
Oui, mais c'est ça qu'on est en train de faire.
On va prendre ses couplets. Ah, c'est pas mal.
On lance, on te laisse te débrouiller.
C'est pour toi
le professionnel.
Je sais pas, je vais te le faire à quatre.
En vrai, on retourne.
Je me réveille au bord du vide, main blafard, mine lessivée, peu bavard. Dans ma mémoire, tout est mort, comme on y est vilaine. Chute libre, sans les filets, dans mon urine, du verre pilé. On a mis le bâton dans la turbine, j'ai bu le poison comme du petit lait. J'ai déjà perdu le souffle, est-ce que j'ai l'air de parler tout seul? La friction sur mon cou, c'est mes addictions qui m'étouffent. Tous ces malades veulent donner conseil, mais pas un seul ne peut me sonder. La folie, c'est bon signe, je suis prêt à mourir en concert. Oui.
Ouais.
Alors, Eli, t'es content ou pas?
C'est pour Eli.
Bon, c'était quand même pas sur Chokwan, hein.
C'était pas sur Chocoins, mais bon, frérot.
Ça fait... En post-prod, tu veux qu'on essaye de... on le time rap et on rajoute.
On a parlé de Boom Bap au début de la session, au début de l'émission. Ça c'est fait vrai. Très longtemps que j'ai pas rappé sur Boom Bap.
Bon, les gars, je vous propose qu'on termine cette émission avec nos classiques recommandations. Un morceau que vous avez écouté récemment, sur lequel vous vous êtes buté, ce que vous voulez. On commence avec toi, Robin. T'as un morceau que t'as kiffé?
Bah écoute, moi j'écoute depuis quelques années un artiste qui s'appelle Obong Jaya.
Ouais.
Qui est un artiste assez niché, nigérian.
Ok.
Qui je trouve fait une musique assez incroyable, très imparfaite.
Ok.
Et j'aime beaucoup les belles imperfections. Ouais,
ok.
Dans la musique. Et là, il vient de sortir un album qui s'appelle
Some Nights I Dream of Doors. C'est ça.
Ça c'est que je trouve très beau comme titre. Ouais. Il y a des nuits où je rêve de portes. Mais je trouve ça génial. Et en fait, il y a cette chanson qu'on va écouter que je trouve très belle. Et je me questionne sur le genre de musique qu'il fait. Et j'arrive toujours pas à comprendre, en fait, ce qu'il fait.
Okay.
Parce qu'il a quelque chose qui me rappelle la voix d'un chanteur blues, de vrai blues. Mm-hmm. Et en même temps, il a des rythmiques de temps en temps assez afro. C'est un peu un genre de modern blues, afro-beatisé, quoi, okay. Tu vois. Je sais pas trop, ouais.
Écoute, laisse parler la musique.
T'as raison.
On lance le morceau. Tu nous l'as bien vendu.
Voilà. You look so pretty on that stage. And you don't even have to think about it. I'm so proud of you. Il n'y a pas de rythmique en fait. Pas sur celle-là, non.
C'est
vrai que la description que j'en ai fait colle pas forcément à ce track, mais il y a plein de tracks en tout cas qui se trouvent qui sont mis plein de choses.
C'est cool.
Ça, il y a un truc un peu, bah, c'est soul, enfin, tu sens des influences soul, c'est R&B, cool. Très, très calme, j'aime beaucoup ouais, son énergie.
Ça s'appelle I Wish It Was Me, hein, le titre.
Ouais. C'est vrai que moi, j'écoute beaucoup de trucs comme ça en réalité, de moins en moins de rap, beaucoup de trucs très calmes. J'aime la paix en musique en vrai.
Ouais, mais t'as raison.
C'est rigolo parce que.
Le chill.
Le morceau que je vais mettre après, Marocco, c'est aussi sans drum, sans batterie.
C'est incroyable, ça.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe?
Mais tu l'avais déjà fait, d'ailleurs, dans DLT. T'avais déjà fait.
Ah, bah, moi, de toute façon, ouais. Tu me fais tourner un sample sans rythmique, je m'en fous.
C'était bien.
Ouais, bien sûr.
C'est quoi ton morceau, toi, Daz, justement?
Alors, moi, c'est un truc, c'est une reco full Spotify. C'est marrant parce que, on a eu une émission avec, on a parlé reco avec Deezer. Ouais. Là, c'est Spotify qui, un jour, m'a placé ce truc-là.
Okay.
Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Et en fait, c'est un gars qui s'appelle Lonely Boy, qui fait, tu sais, la musique que tu utilises pour te concentrer, pour faire tes devoirs de l'université, tout machin, là.
Un peu Lofi.
Lofi, voilà.
Ouais.
Et en fait, le mec, il a juste repris tous les tracks de Warren G.
Ok.
En mode de musique chill Lofi, tu vois.
Okay.
Et donc, il te fait des sons. Donc là, c'est I Want It All qui était sur... c'était un des singles de Warren G sur... l'album qui s'appelait pareil d'ailleurs, et on dit lol, avec normalement une section cuivre et tout. Et donc j'ai dit, mais la vibe est super cool.
Et bah écoute, on s'écoute ça.
C'est parti, mais bien sûr.
Lonely Boy qui reprend du Warren G, I Want It All.
Avec un bruit de la pluie derrière.
J'ai envie de faire mes devoirs, Daz.
Ouais, bah de ouf. Je vais être focus.
J'ai envie de faire mes devoirs. Phrase très très rare.
C'est vrai.
Quand même, on l'entend pas souvent. Hein.
Putain, je vais écrire un truc, les gars.
Ça, c'est le motif normalement de I Want It All. C'est que des petits tracks, tu vois. 1 minute 50.
C'est chill.
Et en fait,
ça accompagne parfaitement un petit verre.
Et ouais, et il mixe tous les albums. Il prend du Regulate, il prend, tu vois, le premier album, deuxième album, troisième album. Il prend tout.
Et tu penses qu'en termes de droit, ça se passe comment pour lui?
Je sais pas. Ben, en fait, il a crédité Warren G.
Oui.
Tu vois, c'est Lonely Boy et Warren G.
Oui.
Donc en fait,
il y a pas le droit de faire ce qu'il veut quand même non plus normalement en théorie. Il faut qu'il ait l'accord.
Je sais pas s'il a demandé.
Il y a beaucoup d'écoute ce monsieur ou pas?
Non, pas trop.
Pas tant que ça.
Mais tu vois, c'est sorti dans mes recours. Alors
écoute, j'aime bien. Tu vois, c'est.
Ouais, c'est chill.
Pour écouter du lofi avec goût, tu vois un peu.
Ouais.
Enfin, qui reprend du Warren G.
Ouais, non, vraiment très bien.
Bah écoute, Lonely Boy, I Want It All. Merci Daz.
Very nice.
Je t'en prie.
Et puis, eh bien,
oui, alors toi,
le morceau que j'évoquais, eh bien, c'est une dame qui s'appelle ML Bush, Bush, je sais pas comment faut le prononcer,
Buck,
B-U-C-H, et c'est issu d'un album qui s'appelle Skinned, que je trouve assez étonnant et très très bien.
Et donc, il n'y a pas de section rythmique.
Et alors, sur ce morceau-là, non, eh bien, on écoute, regarde ce que ça donne.
Oh, c'est les mêmes instruments, vous abusez.
C'est un peu plus 80s, là, tu vois, un peu plus rétro, kitsch.
Et là t'attends.
Et ça n'arrive
jamais. C'est stylé, hein.
C'est très très cool.
J'avance un petit peu. Et le kick ne vient jamais.
Non, et même si tu vas plus loin.
Ah, il y a du chorus et tout.
Il se passe un truc ça, étonnant.
On dirait Enya, ça fera plaisir à François.
Ah, c'est vrai. Et en fait, là j'ai pris le morceau donc qui s'appelle I'm a Girl You Can Hold IRL. Mmh. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle parle là justement de, je pense qu'elle l'a écrit pendant le confinement, parce qu'elle parle justement d'une relation par webcam interposée, ouais. Etc. Enfin bon, les paroles sont assez intéressantes. Et en fait, et tout l'album, c'est une espèce de synth pop expérimental, parce que là j'ai pris le format le plus pop vraiment de l'album. Mmh. Et il y a plein de trucs super bizarres avec des instruments qui pop un peu à droite à gauche, des trucs même au niveau rythmique qui sont parfois étonnants et tout. J'ai une découverte, pareil, c'est de la reco Spotify, je pense.
C'est incroyable la reco.
J'écoutais du Oclou, j'aurais pu recommander d'ailleurs Oclou, qui est très très bien aussi. Et derrière ça m'a suggéré ça. Et c'est vachement bien, donc je vous invite à écouter cet album Skinned. C'est assez étonnant, synth pop expérimental. Étonnante.
Incroyable reco hein, sur cette émission.
Mais toujours, on essaye, on essaye.
Vraiment très sympathique.
Loxley, Robin,
c'est moi,
Robin Conrad.
Toujours bonjour. Enfin, bonjour.
Bon, bonjour. On va se dire au revoir.
On va se dire au revoir maintenant, d'accord.
Mais on te remercie.
J'ai du mal avec les procédures. J'essaie toujours de dire bonjour quand on essaie de me dire au revoir.
Mais c'est bien aussi. C'est bien aussi de dire bonjour quand on dit au revoir.
C'est sûr que tu
vas on va se retrouver, tu vois, je sais pas.
Peut-être, je suis un peu triste.
C'est un au revoir, pas un adieu.
Exactement. Bah oui. C'est un bonjour, même.
Bah oui, salut, Salman, ça va? Non, merci, merci vraiment. Franchement.
D'autant plus que c'était pas prévu. Aujourd'hui que ça s'est décidé, t'es venu. Vraiment,
franchement, c'est du full freestyle.
Merci, c'était passionnant. Daz, c'était bien cool cette émission.
C'était très cool.
Merci à vous pour l'invitation.
Bah attends, tu m'étonnes. C'est le minimum qu'on pouvait faire.
L'esprit hip-hop.
C'était le plaisir.
Rien n'était prévu.
Le plaisir.
Tout s'est fait au pif.
Mais merci aussi à ton équipe d'ailleurs.
Bien sûr.
Qui t'a accompagné.
Adrien, chef op image. Hein, Alex, chef op son. Bien sûr. Merci à notre équipe à nous.
Bah
Élie,
oui,
Jean
la bouclette
Michel.
Évidemment.
Bien
Élie,
sûr,
Jean-Michel,
la bouclette.
Toute la team. François aussi pour
François
le montage.
Au montage. Bon courage François.
Oui, à la fin c'était un peu n'importe quoi. J'espère que le résultat sera meilleur que ce qu'on a proposé en direct.
Stylé.
C'était n'importe quoi.
Franchement, c'était stylé. Je pense que
ça va faire des miracles.
Il y aura la spontanéité.
Ça c'est puis, trop de spontanéité.
Est-ce que on remercierait pas un peu Thoman aussi?
Mais bien sûr.
La MIF.
Dankeschön.
Bitteschön.
Je le dis en allemand, parce que oui. Ils sont allemands. Thomas. Bref, merci Thomas, beaucoup. Sans qui cette émission n'existerait pas. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle émission. J'espère avec l'invité qui, malheureusement, c'est pas de sa faute, elle a pas pu venir aujourd'hui. J'espère que le prochain épisode, ce sera avec elle.
Ah, ça serait chouette.
Très, très cool.
Ça serait chouette.
Et puis voilà. Dans 15 jours, les gars, et les meufs, à bientôt.
Ciao.